Judaïka. Judaïka.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Vous êtes sur Radio Judaïka 90.2 FM ou sur www.radiojudaïka.be. Nous sommes le lundi 3 mai 2021. Il est 20h et comme tous les lundis, on joue la prolongation. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro dont joue la prolongation avec moi ce soir pour parler sport, bien sûr. Quoi d'autre? Eh oui. C'est... C'est un homme heureux, ou presque, hein, que nous retrouvons ce soir, car à défaut d'avoir pu emporter le topper, son club a réussi un grand match et commence à susciter de grands espoirs pour le futur. Bonsoir Henri Daniel.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Très fier aujourd'hui, très fier.
Très fier, et ben il faut être fier, il n'y a pas de raison.
Je ne suis pas pour grand chose, mais je suis fier.
Mais quand même.
Face devant la télé, j'étais comme un fou.
J'imagine. Mais pour faire un grand match, vous le savez, ça aide bien souvent d'être deux équipes. Et son équipe, à lui, a été au rendez-vous de ce topper, même si elle peut nourrir peut-être quelques regrets, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, on est ravis de l'accueillir. Bonsoir Didier Cohn.
Bonsoir Samuel, bonsoir Henri, bonsoir Blaise. Et comme le titrait un de nos confrères de la presse écrite aujourd'hui, hier soir, il y avait deux vainqueurs,
c'est vrai. C'est une belle manière de voir les choses. Enfin... Passé inaperçu en cette fin de saison à suspense dans tous les championnats, son club jouait vendredi soir. Et en jouant si tranquillement, on peut se demander si les Marseillais n'avaient pas déjà commencé leur week-end en avance. Bonsoir Blaise Van der Linden.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. En tout cas, moi je l'ai commencé à la mi-temps le week-end, c'était vraiment catastrophique.
C'était compliqué, je dois dire, c'est vrai. Alors, Van Halen, voilà.
Quelle musique.
Une belle musique d'entrée, ça c'est sûr. On fera une émission un soir spéciale.
Sur les musiques d'entrée.
Ah, c'est vrai.
Ça peut être intéressant.
Il y a match, il y en a des jolis. Alors au programme ce soir, il sera question tout d'abord bien sûr de la Jupiler Pro League. Hein. On reviendra sur les matchs qui se sont disputés ce week-end, tant en Play-off 1 qu'en Play-off 2. Puis on se projettera vers les rendez-vous footballistiques en Belgique qui nous attendent le week-end prochain. Nous aborderons ensuite la partie européenne de l'émission, avec bien sûr la Ligue des Champions, dont les matchs allés se sont déroulés la semaine passée, et dont les manches retour débutent déjà demain. On fera un tour d'Europe, avec un focus sur les Diables, et notamment sur le nouveau roi d'Italie, Romelu Lukaku, sacré ce week-end avec l'Inter, le 19e Scudetto de l'histoire de l'Inter. Et enfin, nous terminerons par le vrombissement des bruits de moteur, ceux qui rugissaient ce week-end sur la piste de Portimão au Portugal, où le grand Barnum de la F1 avait planté son chapiteau pour la troisième manche du championnat du monde. Voilà un programme, un joli programme. Ça s'arrête pas.
Sacré Van Halen.
Même quand on pense qu'il est parti, il est toujours là. C'était le coup d'envoi, vous avez bien entendu le coup d'envoi. On va démarrer par la Belgique, bien sûr, le Play-off 1, et on va pas aller dans l'ordre chronologique, on va commencer par le match d'hier. Hein. C'était surtout le match d'hier que tout le monde attendait, un match qui mettait aux prises le club de Bruges à Anderlecht. C'est donc le premier des deux toppers de ces play-offs. Je vous rappelle que Bruges a largement dominé la phase classique du championnat, que lorsqu'on passe en play-off, on divise les points par deux, et donc pour créer une sorte de suspense. Hein. Et donc Anderlecht, qui revenait comme un boulet de canon sur les derniers matchs de la saison, avait la difficile tâche de commencer ce play-off en affrontant Bruges à Bruges. Et on a eu droit à un grand match, hein, on va le dire tout simplement. Hein. Moi qui suis neutre dans l'histoire, je vois mes deux camarades qui sont... L'ère de Duros aurait pu être mieux, surtout du côté du Brugeois qui dit ça aurait été un grand match si on avait gagné peut-être.
Non du tout, mais non, on est assez d'accord je pense.
Et même de ce que les deux coachs ont dit, ils étaient à peu près tous les deux satisfaits du match, hein. Que ce soit Compagnie ou Clément, ils ont dit tous les deux que c'était un match nul logique. Et...
Voilà, un match nul, donc un partage 2-2. Les Mauves vont globalement dominer la première période, sans parvenir toutefois à marquer. À la reprise, Noah Leng, on le présente plus, on s'en régale quasiment toutes les semaines. Noah Leng donc ouvrait le score sur une rapide attaque, puisque c'est une perte de balle de Haït El Hadj qui, 5 secondes plus tard, se transforme en but de Noah Leng.
Même pas,
4 secondes 8, ouais. 4 secondes 6.
Il va vite, hein.
Et vous avez raison, tu as raison Didier d'insister sur le temps, parce qu'on en reparlera dans la partie F1. Les petites secondes et les dixièmes de secondes, ça fait des différences. Anderlecht réussissait à égaliser par Enmecha en contre-attaque.
Sur une perte de balle.
Sur une perte de balle, belle remontée et Enmecha égalise. Les Bruxellois pensaient même tenir la victoire.
J'y croyais.
Si tu veux, on arrête. C'est vrai que Anderlecht a toujours des problèmes avec la durée du match. Hein.
Est-ce que j'ai déjà dit que je militais pour 80 minutes voilà.
Mais là, du coup, ça aurait fait un.
Ah merde.
85, ce match.
Eh oui, parce que le but du
2-1. On va pour 85.
Le but du 1-2, pardon, il est arrivé sur un coup franc direct de celui qu'on n'attendait plus, ou en tout cas qu'on détestait depuis qu'il était arrivé, Brune Larsen, qui a mis un sublime coup franc.
Il fait la passe décisive pour Enmecha aussi.
Il super monté au jeu. Mais malheureusement pour Anderlecht, qui pensait tenir l'exploit, 3 minutes plus tard seulement, le match allait nous offrir un dernier twist avec l'égalisation de Bas Dost, l'avant-centre des Blauw-en-Zwart, qui lui aussi avait été l'auteur de l'assist sur Noah Leng. Score final, 2-2. C'est un grand match. Je vais vous donner la parole tout de suite. Qu'est-ce qui vous a plu? Je vais commencer par Henri. Anderlecht était tout près de l'exploit. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans le jeu de l'équipe d'Anderlecht?
Je vais dire un truc, comme ça on évacue. La chance. Mais je pense qu'on la provoque. Donc la chance, il y a un poteau quand c'est 1-0 pour Bruges. Il y a un poteau qui pourrait changer le match, ça aurait pu faire 2-0. Il y a une carte rouge, on va en parler probablement, qui aurait dû être donnée à Kullen. Je pense que...
On peut en parler tout de suite.
Voilà. Et puis il y a la dernière seconde. Je pense que s'il y a à 3 cm près... Bas Dost met à la tête et il gagne le match, on parle autrement. Donc, la chance, mais je pense que la chance, ça se provoque aussi. Je pense que ça va, on dit, la chance sur les audacieux. Je trouve qu'Anderlecht a fait vraiment un match à jouer crânement, en déplacement chez le premier. Je l'ai dit au début, je suis assez fier. Mm-hmm. Après, je pense qu'un spectateur neutre a vu un beau match de foot. Ouais.
Moi, j'ai vraiment l'impression que Anderlecht, en fait, comparé au début de la saison, se projette beaucoup plus rapidement vers l'avant et il joue beaucoup moins à la baballe derrière, devant le but, et il touche beaucoup plus vite les attaquants. Et bon, pour moi, il y a toujours le problème Enmecha devant, mais bon, il marque là pour ce match-là. Mais j'ai vraiment l'impression que les milieux touchent beaucoup plus vite les attaquants et donc, en fait, comme ça va vite, les défenses adverses sont prises au dépourvu. Et c'est vraiment une amélioration que j'ai remarquée du côté d'Anderlecht.
Je vais dire quelque chose. Le match, pendant la saison, Anderlecht a perdu 3-0 à Bruges. Ouais. Avec des circonstances de match, il y avait d'abord le carton rouge qui a quand même faussé un peu le jeu de le Conga. J'ai regardé la composition d'équipe. Il y a 5 joueurs qui ont commencé le match, qui avaient commencé le match la fois passée. Et il y a des gens qui ont disparu. Enfin, par rapport à des choses, Van Krombrug, le gardien, était blessé. Vranies avait commencé. Lucassen, on a oublié, avait commencé. Bakali avait commencé. Armstadt avait commencé.
Si vous nous écoutez, on pense à vous.
C'est plus vraiment... aucun au club.
Donc clairement le 11 qu'il a aligné maintenant avec une autre gueule quoi.
Moi... Bah, oui et non, dans la mesure où quand Bakali est arrivé au Sporting Anderlecht, on a cru que le Messi était venu aussi parce que c'était quand même un des joueurs prometteurs. C'était un diable rouge du temps. Enfin, je veux dire, c'était déjà les Kens qui voulaient le titulariser, etc.
Donc, il était en Coupe du Monde.
Ouais. Voilà, tout à fait. Et donc je pense que Bakali c'est un gros ratage pour lui d'abord et puis pour le football en général. Il n'a pas su gérer sa carrière, mais quand tu dis que le 11 a plus de gueule maintenant, c'est parce que les résultats sont là.
Pardon, mais plus performant, t'as raison.
Oui, tu vois, c'est pas...
T'as raison, parce qu'il y avait Persito quand même dans l'équipe.
Aussi, aussi.
Alors, c'est mieux d'avoir très belle au milieu avec Verskaren et Sambi qu'avoir Persito en 10, parce que si je me trompe pas, Persito joue en 10 à ce match-là contre Bruges. Franchement, Persito, bon voilà, il a fait une très bonne saison à l'Union, mais bon.
Et à Bruges aussi.
Ouais, à Bruges, mais il était pas blessé. Oui, c'est ça, tu vois. Enfin, je veux dire, ok, c'est chouette, mais c'est quand même un joueur qui arrive de D2 et qui s'est pas vraiment imposé en D1, quoi. Et maintenant, il est parti en Angleterre et il a pas joué une seule minute depuis qu'il est arrivé.
C'était un prêt, hein. C'était pas
la montée en puissance d'Anderlecht, alors c'est l'éternel débat, est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui vient en premier, ça correspond avec
la stabilité
du jeu, voilà. Et c'est vrai tu parlais, Henri, pour commencer, ou Blaise, pardon, de la vitesse à laquelle ils arrivent à se projeter. Je pense que les combinaisons, notamment les remises assez rapides qui permettent à toute l'équipe de remonter, ce sont des choses qui ne viennent pas toutes seules. On a, nous, été assez critiques de Vincent Kompany sur le process, tout ça. Ça doit faire partie de tout ce qu'il a voulu mettre en œuvre et qui nécessairement prend plus de temps. Et c'est vrai qu'avec le retour de Verskaren, la montée en puissance de Sambi et Eladj, le retour de Trebel, ça fait des beaux joueurs de ballon qui doivent être sans doute assez... qui sont performants parce qu'ils collent bien sans doute avec...
Clément a fait un pari avec Kossounou en essayant de le mettre au milieu du jeu pour les embêter. Ça paraît gratté, je crois.
Alors Didier, justement, donc la performance du club de Bruges, qu'est-ce que tu en as pensé?
En fait, je vais être moins dithyrambique que tu n'as pu l'être. Moi, je n'ai pas vu un grand match, j'ai vu un très beau match. La mesure où il y a eu pas mal de déchets techniques, et quand il n'y en a pas eu, ça s'est fait par un but, puisque une fois que ça passait, ben, c'était au fond des filets. Je trouve qu'Anderlecht, à défaut d'être bien meilleur, parce que sur le papier, c'est les mêmes joueurs, je pense que maintenant, ils ont une confiance qu'ils commencent à retrouver. Et franchement, pour être tout à fait objectif, je suis ravi de voir qu'ils grimpent leur niveau, parce que ça va tirer tout le monde vers le haut. Parce que si on se retrouve comme un championnat de France, encore que cette année, ça me dément. Mais
tu vas arrêter.
Non, mais c'est vrai. Si t'as qu'une seule équipe, on a déjà dit. Enfin, quand je dis on, c'est toute la presse disait Bruges champion avant même le premier coup d'envoi du premier match. Et effectivement, il y a pas eu photo quand on voit que le deuxième du championnat n'a que un peu moins de 60% des points. Je veux dire, on peut pas parler de grand football. Je veux dire, donc moi je suis ravi de voir que Anderlecht grimpe le niveau, que Genk monte le niveau.
Mais pour revenir sur le match
lui-même, l'équipe de Rex, ce qui m'a plu chez Anderlecht, c'est que ils redeviennent conquérants. Ils se comportaient un peu comme un chat comme un oiseau pour le chat, et ils sont redevenus conquérants. J'ai vu deux beaux toppers en trois semaines, parce que Anderlecht c'est aussi un beau match, même si je reste à dire que Bruges ne méritait pas de perdre au Lotto Park, et ici on méritait pas de perdre non plus, mais on n'a pas perdu, à la différence. Par contre, je le disais d'ailleurs ce matin, puisque le lundi tu viens nous faire ta chronique sportive, Sam.
Le lundi matin, on se vous voit, et lundi soir, on se tutoie.
C'est la différence.
Plus formel.
Lundi matin, t'es journaliste, soir, t'es mon ami.
Voilà.
Et donc, j'ai l'impression, et mon propos que j'ai eu ce matin, je suis pas suspect parce que j'avais pas encore lu le journal, aller dans ce sens-là, c'est que Vermeer, à l'interview, a dit peut-être, a-t-il dit, moi je suis plus sûr que lui, ont-ils été un petit peu rattrapés par le stress. Et je pense que Bruges, l'import était énorme. Ils se sont rendus compte il y a trois semaines qu'Anderlecht c'était plus l'Anderlecht du 3-0.
Ouais.
Et donc ils ont appréhendé ce match, je pense, avec même inconsciemment une appréhension, parce que j'ai vu quelques joueurs qui ont commis des erreurs pas habituelles pour eux. Et par moments, je les sentais un peu stressés, alors qu'ils ont 8 points d'avance, ils auraient pu être...
C'est ça, justement. Et de quoi ils ont à avoir peur?
Ben, rien. La pression médiatique. Et puis, il faut pas oublier une chose. Genk avait gagné, ce qui était pas une mauvaise chose, parce que ça veut dire que le deuxième avait perdu des points. Mais, et la presse n'est pas étrangère à ça. Anderlecht, à une minute près, revenait à 6 points de Bruges, avec 5 matchs à jouer. Et ça change la donne. Et quand tu t'es donné pendant 30 matchs, comme ils l'ont fait, comme toutes les équipes l'ont fait, et que t'as 18 points d'avance, t'es tranquille, t'es sur ton trône, peinard, tout va bien, et que en une semaine, cet avantage est divisé par deux, et puis que sur un but et une carte rouge peut-être, ou un truc comme ça,
un poteau,
tu retrouves de nouveau dans l'aléatoire avec 6 points d'avance et 5 matchs, et tout le monde qui vient à Bruges et tout le monde qui rencontre Bruges aujourd'hui, ben c'est le match de l'année. Peu importe qu'on finisse 5e, 15e, si on bat le premier, c'est un petit peu comme si on avait gagné la Coupe du Monde, quoi.
Alors, sur Kossounou, voilà. Ton analyse?
Sur Cossonou, alors moi je suis moins tactique que toi pour être honnête dans le jeu. Je pense que je salue les deux entraîneurs parce qu'ils n'ont pas du tout fermé le jeu, que du contraire, ils ont pris des risques. Et Cossonou pour moi dans l'axe, c'est un pari perdu comme tu dis, mais c'est un pari quand même et ça aurait pu un meilleur jour pour Cossonou parce qu'il n'était pas non plus dans ses meilleures dispositions. On a oublié qu'il n'y avait pas Matin non plus.
C'est ça, Matin. Ouais.
Et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Bruges.
Alors, en regardant ce match, le début notamment, la domination d'Anderlecht, le récent passé de Bruges, puisqu'on l'a dit, on l'a répété ici, ils se sont fait éliminer de la Coupe d'Europe, de la Coupe de Belgique. On a l'impression, la sensation, il faut dire qu'ils avaient tellement bien commencé et pris une telle avance, que leur niveau, ou je ne sais pas si c'est le niveau, en tout cas ça s'est réduit, leur niveau, moi je vais dire qu'il baisse un petit peu. Alors est-ce que c'est Bruges dont le niveau a baissé ou est-ce qu'Anderlecht a beaucoup progressé ces derniers temps?
Je pense qu'Anderlecht a beaucoup progressé parce que c'est pas que contre Bruges qu'ils ont montré ça. Si à la limite ça avait été uniquement dans la victoire contre Bruges il y a 3 semaines et le match d'hier, mais ils ont, ça fait,
enfin, cinquième match affilé.
C'est ça, voilà. Enfin, ouais. Ça fait 3 mois là que c'est, qu'ils sont chapeau plein et c'est super. Mais d'un autre côté, je pense aussi que c'est pas, peut-être pas forcément le niveau de Bruges qui a baissé, c'est juste, j'ai l'impression qu'ils sont plus là en fait, qu'ils sont déjà en vacances et que ils sont en vacances depuis.
Qui c'est à Bruges?
Bruges.
Non, en vacances. Non, je suis pas d'accord. Non. Ils pouvaient gagner ce match avec le. Ils ont fait un match complet.
Ouais, pourtant ils le font pas.
Moi je suis
là. Oui, mais là je excuse-moi.
Vas-y, vas-y.
Je partage pas ton avis, Blaise, parce que justement moi je voulais le dire. Je salue quand même et c'est pas la première fois. Je pense que c'est rare dans les statistiques, mais c'est Sam surtout et Henri qui sont les plus doués. Je pense que c'est le futur champion peut-être qui aura été mené le plus souvent toute l'histoire du championnat. Et ils sont chaque fois revenus au caractère. Et hier encore, alors que s'ils étaient en vacances, ils auraient pu. Ils ont eu cette niaque d'y aller. Moi, j'étais assez content d'être supporter de Bruges, de voir ça, de ne pas. Il reste 3 minutes, tu prends un goal tout à fait évitable sur une faute, qui est évidemment une faute, mais c'était pas non plus. On dit que c'était une faute, la faute professionnelle. Non, ils croisent leur course et c'est un acte.
Oui,
ça aurait pu ne pas être sifflé pour le même prix, on va dire. Voilà. Et j'ai aller rechercher là encore une motivation supplémentaire avec peut-être même la balle de match à la dernière seconde.
Oui, absolument.
Moi, j'estime que ce n'est pas des joueurs qui se sentent en vacances quand tu les vois concernés tous autant qu'ils sont, quand tu vois la niaque qu'ils ont mis.
Alors, donc le niveau a baissé.
Non, et excuse-moi, le niveau n'a pas baissé, je reviens à dire, je pense qu'ils sont rattrapés par le stress. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'Anderlecht qui a beaucoup de jeunes dans son équipe, à Bruges aussi, moins qu'Anderlecht évidemment, il y a des cadres comme Vermeer, etc. Mais Mata, qui est vraiment normalement le climatiseur de l'équipe, n'était pas là. Je pense que Van Aken n'est pas dans son pic de forme pour l'instant, clairement. Mmh. En tout cas, pas dans sa vista. Par contre, c'est toujours lui qui court le plus. C'est le Brugeois qui a couru le plus hier, encore une fois. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'ils ont été éliminés de 2 coupes en 10 jours, mais par contre, ce sont 2 accidents de parcours parce qu'ils n'ont en aucun cas mal joué.
Non, c'est vrai.
Ils ont dû digérer.
Deux éliminations pas du tout par manque de qualité.
Mais ils ont dû digérer quand
alors,
même.
Oui.
Ça a été, ils ont gagné 5-0 le 3 jours après, ou 4-0, je pense, à Courtrai.
Mais il doit y avoir quand même, psychologiquement, et je vais m'appuyer là sur une déclaration de Bas Dost, d'abord, je vais vous dire ce que je pense. Psychologiquement, je pense que quand vous êtes en course sur 3 tableaux, que vous êtes en Ligue Europa, qu'on commence à dire vous jouez tellement bien que peut-être vous pouvez faire quelque chose de très bien, que vous vous faites éliminer de la manière dont il se fait éliminer par le Standard en coupe, ça va être difficile de se remobiliser en se disant « bon, bah, il reste le championnat quand on a tant de points d'avance ». Et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Bas Dost. Bas Dost a dit qu'il était absolument contre le système des play-offs au départ. Il est arrivé en disant, c'est quoi ce truc? On a 16 points d'avance, on est champion, c'est tout. Oui. Il y a pas de...
enfin, on est le seul championnat à l'avoir dans tout le monde. La Suisse...
il a dit que quand le match avait débuté, il avait compris parce qu'il y avait du suspense. Et effectivement, peut-être pour revenir sur l'histoire du stress, Genk a gagné la veille, donc ils étaient revenus...
L'avant-veille,
pardon. Ils étaient revenus à...
À 8 points.
Si Anderlecht gagnait, Anderlecht revenait à 6 points. Et il y a un Genk Bruges la semaine prochaine, et Genk est vraiment l'équipe en forme, et donc potentiellement, moi je me disais, en cas de victoire d'Anderlecht, pourquoi est-ce que Genk n'irait pas gagner à Bruges?
Bruges va à Genk, je pense,
qu'on aurait eu un croisé de deux,
et Anderlecht pouvait revenir à 3 points.
Exactement, donc le Il y a sans doute un peu de stress.
Ah, je suis certain, oui.
Moi, je...
À leur place, termine. En tout cas, moi, je l'aurais.
termine.
Non, non, et donc, ben voilà, c'était... Je me suis dit que ça devait être difficile de se remobiliser psychologiquement quand, ben, à un moment, vous vous retrouvez avec beaucoup d'avance, que ça devient... Ça ronronne pas, je dirais, à Bruges.
Je crois que c'est chez les adversaires que ça change psychologiquement. Ils se disent...
Ils sont prenables.
C'est ça qui a changé avec les deux défaites.
Oui, sans doute.
L'Antwerp a été battu Bruges. Et quand on a dit, oui, on a vu les matchs contre le Standard, on a vu les matchs contre Kiev. Ouais.
Enfin, alors, j'aimerais revenir...
Vercotteren, c'est Vercotteren.
Oui, mais c'est dans l'esprit. Quand Bruges était dans sa série, t'allais à Bruges en victime...
Oui, c'est ça, victime expiatoire un peu. Je voudrais revenir sur des faits de match et sur des joueurs. Premier fait de match, on l'a
Excuse-moi,
dit...
Excuse-moi, je voulais signaler un truc. C'est que c'est assez psychologique, parce qu'en définitive... Au jour d'aujourd'hui, Bruges est peut-être rattrapé par le stress parce qu'ils ont 8 points d'avance. Il reste 5 matchs ou 6 matchs. Alors que dans une phase classique, ils auraient 8 points d'avance à 5 ou 6 matchs de la fin.
C'est quasiment fait.
Ils seraient tout à fait tranquilles. Donc comme quoi, c'est
plus... Je vais reprendre des termes.
C'est vrai que c'est une absurdité, mais en même temps... Ça crée du suspense, crée du suspense à tous les étages.
Pour reprendre des termes que tu avais utilisés avec Felice Mazou, il faudrait vraiment un tremblement de terre, une pandémie,
non,
un truc pour
là,
pas être champion.
Felice, il lui fallait un point. Je veux dire, il faut... Voilà. Avec la saison...
Et il avait pas les playoffs.
Voilà.
On l'a dit en ouvrant, Anderlecht a dominé la première période, mais a manqué vraiment de... J'allais dire de réussite, c'est pas de réussite,
non.
C'est de...
Percussion.
Percussion de... Allez, on va le dire tout de suite, on n'aime pas... Il est bien, il est sympa, mais Nmecha qui loupe ce lob à la 28-29e minute, il y a une très mauvaise relance au pied de Mignolet. Et puis, il a...
Mignolet relance, c'est la passe suivante.
Voilà, la relance, est sans doute, elle ne met sans doute pas son coéquipier dans les meilleures conditions. Il se fait subtiliser la balle et Mignolet se trouve à ce moment-là à l'entrée du rectangle.
Au point de corner de l'autre côté.
Ça, il n'est même pas dans l'axe.
Il n'est pas vraiment dans l'axe, mais en tout cas, Nmecha la met 4 mètres au-dessus.
Il doit la
mettre
5 mètres au-dessus.
Facile.
Par contre, oui, elle est facile à partir du moment où tu sais que tu vas la recevoir dans les pieds. Le mec, franchement, il a eu le bon réflexe parce que Mignolet joue tous les matchs là. Tous les commentateurs disent, mais si les joueurs pouvaient le savoir, et ils le savent, ils voient des palettes et des palettes et des palettes, et Mignolet toujours, et ce n'est pas la première paire de balles de la défense, eh bien, c'est le premier qui a eu le geste qu'il fallait. Il l'a loupé. Donc, moi, pour mon meilleur bonheur, on est bien d'accord. Mais il reçoit la balle, il n'est pas non plus face au goal. Hein. Il l'a fait en première intention. Oui. C'est pas évident. Il n'a pas eu le temps de regarder.
Mais un tueur l'aurait mis.
Ouais, voilà.
Exact, c'est ça. Et c'est toujours le même débat. C'est que ce n'est pas un tueur, en fait. C'est pas un tueur. C'est toujours...
Mais il fait un bon match.
On fait toujours le même discours.
Exactement.
Mais c'est pour ça qu'on va pas passer
2 heures sur lui. Mais effectivement.
Non, mais c'est vrai que Anderlecht avec un vrai neuf. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'allais dire quand tu disais, Didier, que c'était pas un tueur. C'est pas un Basdost. Un Basdost, celle-là, il la met les doigts dans le nez, je pense.
Je pense aussi. Je sais pas parce qu'il en a loupé des plus évidentes à mettre sur les 4-5 derniers matchs. Enfin, mais il a mis les buts importants, notamment hier.
Mais à part ça, Nmecha fait un bon match quand même.
Bien sûr.
Il coupe au premier poteau, il coupe un beau centre que Mignolet sort bien. Il finit par marquer, égaliser, donc plutôt un bon match.
Moi, je vous avoue qu'après 30 secondes, j'avais compris que ce serait un match très compliqué. Parce que quand tu vois à Bruges, au Bredel Stadium, et les deux premières minutes d'Anderlecht, tu avais l'impression que tu étais au Lotto Park.
Tout à fait.
Et je me suis dit, waouh, ça va pas être de la tarte. Ou alors c'est un feu de paille et on va la gagner tranquille. Ou alors ça va franchement être compliqué. Et ça a été franchement compliqué.
Alors, on va terminer sur ce match. On va prendre un prisme un peu particulier. Dernière question. Vincent Kompany ou Philippe Clément ? Qui a gagné le match, s'il y a eu un match gagné
et... Pour moi, c'est match nul.
2-2, oui.
Avec un avantage au point pour Kompany, qui a quand même titularisé un gamin.
C'était là-dessus que je voulais vous amener.
Ah ben, c'est un métier. Hein.
Comment ?
C'est un métier.
En tout cas, on a vu sur les critères qui étaient probablement les points faibles de Timon Velenroter, c'était le jeu à pied. Là, il y a alors une assurance. Le mec a 18 ans, il commence premier match titulaire à Bruges, le futur champion.
C'est le Arnaud Baudard d'Anderlecht.
Mais c'est un choix, en fait. C'est un choix, il était sur le banc, Timon. Ah ouais,
ouais.
Ok, d'accord.
Donc c'est, mais par contre, je peux pas te dire qu'on l'a vu vraiment à l'œuvre sur les
Non, c'est vrai que sur les deux buts, il peut pas grand chose.
Il arrête la tête à la fin, là. L'occasion à la toute fin.
Oui, il a fait son job, mais je.
Mais il était rassurant pour ses arrières.
Mais son attitude, c'était...
Alors, j'ai oublié son nom, en fait.
Verbruggen.
Eh bien, moi je pense que Kompany a fait avec Verbruggen, ce que Clément a fait il y a un an et demi avec De Ketelaar.
Oui.
En faisant monter un gamin comme ça au PSG, s'il vous plaît, en Champions League, s'il vous plaît. Eh ben, il fallait oser. Tout le monde a dit, mais il est fou. Eh ben, voilà. Et tu as une pépite comme ça dans, sur ton banc et tu l'as fait jouer et
alors,
il explose.
Comme vous l'avez dit, on n'a pas tout vu parce que ça, enfin, pas tout vu de ses qualités à lui parce que c'est, il pouvait pas grand chose sur les buts. Il a quand même fait de beaux arrêts. On va le revoir à l'œuvre, et on l'observera. Et un deuxième joueur que je voudrais, cité, enfin, et c'est pour ça que Compagnie ou Clément, c'est un bon coaching de Vincent Compagnie d'avoir fait monter Brune Larsen et d'avoir fait jouer là où il l'a fait jouer.
Alors qu'il est à la cave depuis qu'il est arrivé. Et...
D'où l'intérêt de faire des matchs amicaux en semaine.
C'est ça, il aurait vu pendant le match amical qu'il était plus à l'aise dans l'axe.
Il a marqué deux buts, c'était contre quoi ?
Ostend,
oui.
Et il met un coup franc. Ouais. Moi, je le trouve magnifique, ce coup franc.
Alors, surtout à Mignolet, quoi.
À Mignolet, on peut toujours dire que c'est le côté ouvert.
Encore
enfin,
que
celui
pour
que...
moi, le mur n'est pas idéalement mis.
Mur n'est pas bien mis, mais il est forcé par l'espèce des deux trois joueurs qu'Anderlecht a mis à côté de ce mur. Tu sais, quand j'ai vu ça, c'est vraiment super intelligent de mettre ces deux trois joueurs qui poussent en fait le mur brugeois à l'extérieur. Tu sais, et donc la balle passe tranquillement, quoi. Et je sais pas comment ça se fait que le mur brugeois n'a pas juste donné un coup d'épaule, mais
moi, j'ai l'impression qu'un Mignolet, dans un état, je veux dire, à 100% hier, pour moi, il était à 97.
Il l'apprend.
Ne fût-ce que la dévier, pense. Je ne vais pas dire que c'est de sa faute parce que le coup est merveilleux.
Non, il est merveilleux parce qu'il
est puissant et placé.
Il est très bien placé. À mon avis, le petit mur d'Anderlecht, c'est aussi pour cacher le moment du départ du ballon et le tir. Et c'est une demi ou seconde ou je ne sais pas combien qui fait la différence au bout du compte. Parce que s'il la voit partir, sans doute qu'il réussit à se projeter un peu plus
ça,
sur sa gauche. Et
entre le tir de Sambi la semaine passée, au dernier match. Le dernier topper dans le championnat,
mais but c'était flottant, la balle part à droite, elle revient.
Mais c'est pas ça, c'est comme.
Ah, il a pas de chance.
Contre Anderlecht deux fois, pardon.
En même temps, remarque, on a donné à Keylor Navas, on a lui attribué la responsabilité sur le coup franc.
Son mur.
C'est son mur. Mais on a dit que lui, il était passé à travers son match.
On en parlera tout à l'heure,
mais. C'est facile à dire, un gardien quand il
C'est ça, le gardien, s'il arrête une balle, on l'encense et s'il prend, s'il encaisse.
Je veux dire, pour tous les points que Mignolet nous a rapporté cette année.
Non, mais je pense, sur les coups francs, à part quand il se trouve vraiment les gardiens, quand c'est bien tiré, c'est quasi
impossible à les prendre.
Moi, j'ai revu, je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube, un petit reportage, une quinzaine de minutes sur Juninho, l'ancien lyonnais. Mais bon, lui, c'était sans doute le plus grand frappeur de coups francs au monde. Mais il y a des moments où, quand c'est trop bien tiré, le gardien de but peut pas aller sur le ballon. Il était placé, il a suffisamment contourné le mur et il est resté assez haut. Il est rentré dans le but assez haut. Donc
Est ultra puissant en plus. Et c'est rare des coups francs super puissants de ce côté-là. Et puis il est pas si loin que ça non plus aussi. Et donc il met une espèce de boulette ça marche.
Oui, Henri.
Je vais parler de deux jeunes. On a parlé de Ketelaar, il fait un retour sur une contre-attaque. C'est lui qui donne le coup franc. Il y a une contre-attaque. Un Mouzou se rate, mais le sprint que fait de Ketelaar, c'est vraiment impressionnant.
Ça, on parlait de motivation.
Ah non, mais complètement.
Et ça fait plaisir.
Et quand tu m'as repris là-dessus, j'ai directement pensé à la course de Ketelaar.
Parce qu'il peut rater sa passe et que ça arrive quand même, mais de Ketelaar fait un retour incroyable.
Ritz aussi.
Ritz sur la ligne.
Ritz aussi arrête sur la ligne.
Et alors, un autre jeune, je voudrais parler de Yari Voskar, parce que ça devient banal, mais quand même, il fait pas un mauvais match. Mais maintenant, je pense que vraiment, il va devoir travailler le physique. Il m'a fait penser un peu à Tielemans quand il a commencé, pas au même poste. Mais quand on voit le corps que Tielemans a maintenant et le corps qu'il avait quand il était à Anderlecht, il a travaillé, quoi, c'est sûr.
Je pense que Voskar.
C'est pas le même sport, en Angleterre.
Il s'est blessé il y a.
Décembre. Solidement blessé d'ailleurs.
Il s'était bien blessé, donc il revient et souvent, il a été, moi j'ai trouvé moins bon que ses compères du milieu de terrain, même que Trebel ou Xambi. Peut-être qu'il va avoir un petit coup de mou physique parce que quand vous revenez après une si longue absence, même s'il est jeune. Mais il a fait un bon match. J'aimerais parler un dernier point dans ce match. On peut pas l'éviter. C'est Monsieur Kullen qui prend pas de carton rouge. Quand vous voyez le tacle qu'il fait, il met clairement, alors je pense que c'est de la maladresse, mais il met ses crampons le bas de ses crampons est sur la cheville, donc le haut se trouve au-dessus. Et dans les règles de la FIFA, les crampons sur la cheville, c'est jaune, au-dessus de la cheville, c'est rouge. Et il n'a pas eu de rouge. Et Didier, tu as raison, parce que tu vas nous dire quelque chose.
Oui,
il y a un autre match où c'est pas passé.
Hans Van Aken, je te l'avais dit à l'époque, ils ont voulu faire l'exemple, d'une part parce qu'il y avait la faute et que c'était le ballon d'or, et d'autre part parce qu'ils s'en étaient pris à l'arbitre, et ça c'est inexcusable, il faut me donner l'exemple. Mais voilà, moi, je vais pas dire que ça me choque qu'il n'y ait pas eu de carte rouge, parce que dans le direct, etc., effectivement, il n'y avait pas d'intention méchante, et le match en lui-même était dans un excellent esprit. Je pense que d'un certain point de vue, pour le sport en général, c'est pas plus mal, dans le sens où, le match restait équilibré. Par contre, là où il faudrait que les arbitres, et c'est dommage que... notre ami arbitre...
Marcel Javot
ne soit pas là, c'est... J'ai envie de dire, alors Van Aken, ça aurait dû faire jurisprudence, voilà.
Oui, tout à fait, moi je suis d'accord.
Parce que Van Aken, on voit, pour ceux qui se souviennent, c'était il y a 3 mois maintenant, ou 4 mois, on voit qu'au dernier moment, il lève le pied, mais ça n'empêche, le contact est là, tandis que là, il n'a même pas essayé, il a appuyé Godas sur l'accélérateur.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis, bon, pour le sport, moi, pour moi...
Non, rouge, c'est rouge, je suis d'accord.
Il y a une faute, en plus, quand la FIFA et le board prennent la peine de dire... pour une fois, de mettre quelque chose de plutôt un cadre au-dessus de la cheville, en dessous de la cheville. Ok, mais je veux dire, voilà.
Ça sert d'avoir mis la VAR alors, si ce genre de truc n'est pas sifflé?
Qu'il évite la rouge et il évite la sanction pour les matchs suivants.
Oui. D'ailleurs, ça va être un peu un fil rouge, on va pas passer notre temps là-dessus, mais il y a eu des problèmes d'arbitrage ce week-end. Il y en a eu en Angleterre,
Tottenham. En France aussi, il y en a eu hier soir.
Et en France hier, il y a Monaco-Lyon. Et il y a, je pense que tu penses à la même action, Kadewere,
exactement. C'est à peu près la même chose. C'est le pied à la même hauteur et il prend un jaune.
Il prend un jaune et les commentateurs disent, et à mon avis ça tourne dans la tête de l'arbitre comme ça, il vient d'expulser il a expulsé un Lyonnais peu avant et il se dit, si je l'expulse lui, c'est du 9 contre 11, c'est pas bien pour la fin du match. Et total, Lyon gagne 2-3.
Alors les mecs, ils arrêtent de mettre leurs pieds au niveau des genoux, quoi.
C'est ça. C'est pour ça que je dis, il y a une règle, il faudrait que ce soit...
Mais le VAR est incohérent.
Ouais.
Monaco doit être furax alors. Ouais. Parce qu'ils ont perdu, finalement.
Et je pense que ça doit être à la base de l'accrochage qu'il y a eu en fin de match.
Après, c'est parti en bagarre générale.
Ouais.
Mais en même temps, faut pas oublier que Josh Cullen, alors, il a très peu joué cette année. Et d'abord, parce qu'il n'a pas été très bon, je pense. Ensuite, il a déjà été expulsé deux fois. Hein, si ma mémoire est bonne, déjà 2 rouges.
Je pense
qu'il est là, il me semble, en tout cas. Et normalement, ça aurait dû être 3. Et donc, mais c'est un Britannique, un Irlandais. Et il a joué en championnat anglais. Et pour avoir vu des images que tu m'as montrées ce matin d'un match où on essuie carrément les crampons sur le visage, même pas... c'est légèrement au-dessus de la cheville, le visage. Hein, j'insiste auprès des instances. Et puis là, le VAR intervient en plus.
C'est ça qui est terrible.
Ils regardent, ils disent attendez, on regarde, et puis non, c'est bon.
On va en parler tout à l'heure quand on parlera de l'Angleterre.
C'est du MMA, quoi.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match, sur ce topper
qui... Vivement le retour.
Vivement le retour. Je suis d'accord avec toi. Je vous propose qu'on passe au deuxième match qui chronologiquement était le premier, celui qui s'est joué vendredi et qui était le match d'ouverture de cette session de play-off. C'était l'Antwerp qui recevait Genk. Vous vous souvenez que l'Antwerp a mis Lior Raphaëlov de côté, on va en parler aussi.
C'est n'importe quoi.
Et que Genk restait sur la lancée de sa victoire en Coupe de Belgique. Ils avaient battu le Standard la semaine passée. Et les Limbourgeois ont enchaîné avec une victoire 2-3 sur le terrain de l'Antwerp. Et ce sont les deux hommes en forme, même les trois, parce que Ito est aussi.
Cette triplette, c'est impressionnant.
Il est monstrueux pour l'instant.
La triplette Bogonda, Onuachu, Ito.
Onuachu, d'après ce que j'ai lu.
Oui.
C'était un ton en dessous de ce qu'il a produit ces dernières années.
Mais il marque.
Il a mis son 30e but de la saison.
C'est ça qui est fou. Quand t'es attaquant, t'es quand même.
Mais Ito et Bogonda la semaine passée, il m'a scotché Bogonda.
Mais ce week-end aussi, c'était
incroyable.
Alors, Bogonda, justement, il a ouvert la marque à la 20e minute. L'Antwerp a égalisé.
On se rapproche de l'euro en même temps.
A égalisé, voilà. A même pris l'avantage à la 60e.
trompe.
À la 61e minute, mais Onwuachu, donc meilleur buteur du championnat, a inscrit son 30e but. C'était à la 73e minute. Et Bongonda, sur un centre d'Ito, est venu donner la victoire à son équipe à 2 minutes du terme. Victoire donc de Genk sur l'Antwerp 2-3. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, ceux qui l'ont vu en long et en large?
C'était open mind.
Ouais. Déjà, la victoire est largement méritée pour Genk. Et moi, j'en peux plus de l'Antwerp, en fait. Je sais même pas ce qu'ils font là. Je veux dire, c'est...
Il y a Didier.
Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, déjà, je comprends pas comment, et Bongonda, il le dit à la fin du match, ils comprennent pas comment ça se fait qu'ils aient pu encaisser deux buts.
Parce qu'il y a un super assist de Bokani.
Oui, non, mais les buts sont beaux et tout, mais genre, enfin, c'est toujours, enfin, il y a pas d'action, c'est des contre-attaques, c'est pas beau à voir jouer, ils jouent à sept défenseurs.
Enfin, j'ai exactement la même impression que toi, pour être honnête. Et puis en même temps, il faut avoir l'objectivité de reconnaître que ça marche.
Mais bien sûr,
Bologna, ça marchait déjà, mais on se faisait trois petits points pendant tout le match parce qu'il mettait le bus de la première à la 90e.
Et puis il cassait les autres en plus.
Il avait ses salopards, comme on avait à le dire, du temps du Standard. On a eu Ivan Leko qui a proposé un jeu beaucoup plus léché, qui était vraiment dans la lignée de ce qu'il a fait à Bruges d'ailleurs.
On a des nouvelles d'Ivan Leko?
Non, il va à la banque régulièrement. Et puis on a Verkotteren qui lui est un véritable tacticien. C'est un ordinateur, le gars. C'est la vieille école aussi.
Oui, c'est ça.
Je pense. Mais ça porte ses fruits.
Pas une critique de leur position actuelle. Tu vois, c'est juste que vraiment ce jeu m'ennuie à mourir.
Mais c'est efficace.
Ouais.
C'est efficace. Ouais. Ils ont des assises derrière juste incroyables. Ils ont des joueurs top. Par contre, ce que moi je déplore, c'est carton rouge pour ma part, c'est le cas Refaelov. C'est n'importe quoi. Alors, ça fausse les playoffs, d'ailleurs.
En fait, c'est Anderlecht le problème dans l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont été l'annoncer? Enfin, je veux dire,
rien n'est mal fait. Je veux dire, ils ont le droit. Il est en fin de contrat. Il a signé. Ouais. C'est la vie. Merci mon Dieu. Et puis terminé. Et puis il doit honorer son contrat jusqu'à la fin juin.
Ça, c'est un pro.
Peut-être, mais ça, on le saura peut-être un jour ou pas, que dans le contrat, il a demandé de ne pas jouer pour pas se blesser, pour pas. On ne saura jamais.
Il peut demander ce qu'il veut. Normalement, son club, c'est
peut-être pas
c'est
lui, peut-être qu'Anderlecht t'a demandé, peut-être que ça fait partie du contrat, peut-être qu'il y a eu de l'argent qui a été versé pour qu'il ne joue pas.
Ce que j'ai entendu, c'est que c'est une décision du club de l'Antwerp et que ce serait pas hyper bien passé, notamment dans le reste du groupe, parce qu'il y a quand même des problèmes extrasportifs un peu à l'Antwerp.
Si Lamkelze est passé, le cas Lamkelze
exactement,
est passé.
C'est justement ce qu'on reproche, c'est dire Didier, qu'on adore, qui nous a fait
s'il n'était pas là, l'Antwerp, on ne parlerait même pas de l'Antwerp en play-off.
C'est la différence de traitement dont visiblement.
Refaelov est un exemple. Tout le monde le dit d'ailleurs.
Je crois que ça peine.
Je trouve ça manque de respect envers le joueur, de dire le mec est pas professionnel, quoi.
C'est ça. C'est partir du principe de dire il a signé ailleurs, donc il va forcément nous.
Moi je crois qu'il s'est plaint.
Soulier d'or.
Je crois qu'il s'est plaint, mais en hébreu, personne ne comprend.
C'est le premier soulier d'or de l'histoire du foot en Belgique qui a été nommé après 6 mois, parce que c'est avec le Covid. Bon, c'est soulier d'or. Il est à l'Antwerp, il joue bien, il est dans un état de forme tout à fait acceptable, donc il n'y a aucune raison de le mettre de côté, si ce n'est peut-être le faire rentrer comme un joker de luxe dans certains clubs. Et là, on le prive et on est en train d'amputer les playoffs, quoi, parce que ce gars, là, il aurait pu briller et clairement, c'est une valeur ajoutée pour une équipe comme l'Antwerp.
Est-ce que du coup, vous pensez que l'Antwerp, en commençant comme ça, en se privant de Refaelov, va dériver jusqu'à la fin du play-off?
Ils vont être en roue libre, oui.
Ouais, je dis 4 assurés.
Donc le vrai duel, ça va être Genk Anderlecht pour la deuxième place.
Moi, je pense que c'est parti comme
je
ça.
Je pense que c'est compliqué les pronostics quand même.
Ce ne sera pas le standard, ça c'est sûr.
Alors, pour le classement, donc Bruges compte 39 points, Genk 31. L'Antwerp est encore troisième quand même, avec 30 points, et Anderlecht 4e.
Mais ils doivent encore aller à Bruges, qu'Anderlecht est déjà fait.
C'est ça.
Non mais c'est vrai.
Oui, non, mais c'est sûr que c'est des points.
Enfin, aller à Bruges cette année, c'est comme aller n'importe où. Ça n'a plus la même valeur que d'aller quand il y avait du public.
Les rendez-vous la semaine prochaine, c'est vendredi Genk contre le club de Bruges et dimanche Anderlecht contre l'Antwerp. Moi, j'ai trouvé qu'on avait assisté à un beau week-end de football. Ah oui, et que pour
c'était ouvert, hein.
Ouais.
Tous les matchs étaient ouverts.
Tu sais parce que le Standard jouait vendredi.
C'est ça. Non, mais on va parler aussi un petit peu des play-offs 2. Mais je disais ça à Henri tout à l'heure. Hier, j'ai regardé le match de français, Monaco-Lyon, et ils ont interviewé Olas à la fin du match. Et il a servi, mais c'est un excellent VRP, quoi. Il a vendu le truc en disant, bah, en tout cas, ça fait quelques, vous savez que les clubs français cherchent des diffuseurs pour très très cher. Et il en a profité pour passer sa petite pub en disant, en tout cas, vous êtes gâtés par les matchs du dimanche soir. Ils sont formidables ces derniers temps.
S'il croit que ça va changer quelque chose.
Oui, mais en tout cas, j'avais envie de dire que c'est un petit peu ce à quoi ça m'a fait penser ce week-end de foot en Belgique. Bruges est toujours excellent. Genk joue vraiment bien. Anderlecht, on l'a dit, remonte. Et si c'est pas pour cette année, j'ai l'impression qu'on va avoir l'année prochaine, si ça reste en l'état, un super championnat.
Si Genk arrive à garder ses joueurs.
Si Genk arrive à garder
Anderlecht,
pareil.
Ouais.
Pareil pour tout le monde, à part Bruges.
Ça va.
Ouais, c'est ça.
Par contre, d'ailleurs, on parle déjà de Kettelaar en Italie, je pense.
Naples,
je pense. À Naples, c'est ça.
Je sais pas si vous avez vu, le diffuseur à la mi-temps ou avant le match a fait un sondage auprès de ses téléspectateurs pour savoir entre Aitela et Noah Lang qui allait avoir la plus grande carrière. Et ils ont tous, enfin, les téléspectateurs ont voté pour Aitela.
Mais non.
Et j'étais là, j'étais quoi?
C'est francophone, c'est un diffuseur
francophone.
Ouais,
c'est ça, exactement. Mais j'étais choqué, quoi.
En parlant de francophone, on va passer au Play-off 2. Et on ne peut pas ne pas commencer par le Standard, ou plutôt par Ostende. Victoire d'Ostende sur le Standard, 6-2.
On se croirait à Roland-Garros.
Hein. Ah ouais.
Dommage que Steve n'est pas là.
Oui.
On salue d'ailleurs.
On salue. Le Standard a vraiment sombré.
Ouais, je trouve ça très dur aussi.
Ils ont oublié peut-être les valeurs du club, en tout cas, c'est ce que certains disent. Il faut voir le scénario du match un petit peu, parce que ils sont menés 3-0 quasiment à la fin de la 44e, le but de Théâtre.
Ah, 44e, putain.
Et donc on pense qu'on va retourner au vestiaire à 3-0. Et puis Mouleka marque, il marque sur une tête, sur un corner, personne ne l'a vu, il marque. Et alors que là, le commentateur, c'est marrant d'ailleurs, il dit, bon bah, ce sera 3-1, ça va peut-être relancer le match. Et ben Carcella marque.
Sur passe de Mouleka.
Voilà, passe de Mouleka. Et donc on rentre au vestiaire à 3-2 seulement pour Ostende. Dans ces cas-là, on sait que quand vous avez mené 3-0, que vous revenez à la mi-temps
la dynamique a dû être inversée.
Et malheureusement, on a eu droit à un Carcella à double face, puisque c'est lui qui avait revené.
Je m'excuse, je vais faire un coup de gueule. N'en peux plus de ce joueur.
Alors juste, je dis pour nos auditeurs, il a été expulsé à la 51e minute. Il y a un ballon qui est un peu trop poussé. Il y va, le
tout
pied en avant.
Il a joué contre Bruges, contre Anderlecht.
On le voit.
Et chaque fois... Alors, c'est parce qu'il s'appelle Carcella, je pense. Il a un talent fou, hein. Ça n'est pas à remettre en question une demi-seconde.
C'est un des meilleurs joueurs du championnat. Du coup, il est entre guillemets protégé, quoi.
Il n'est pas protégé. Je veux dire, il se prend pour une ballerine, j'en sais rien. Mais chaque fois qu'il prend des cartes, c'est des fautes méchantes de frustration. Et il n'y a pas de faute gentille de frustration. C'est chaque fois, une fois, il a même pas, on l'avait évoqué ici, on voit il veut donner un coup de pied volontaire qui, par chance, ne touche pas l'adversaire. Mais il ne supporte pas qu'on lui prenne la balle, et pourtant c'est la base du foot. Et voilà,
son expérience.
Il a qu'à retourner dans les cours de récré, ou s'installer à la boxe, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est dommage de polluer les terrains de foot quand on est doué comme ça, quand on a un talent comme ça, quand on a une attente de ce supporter. Moi, je ne suis pas supporter du Standard, mais je me mets à la place du supporter du Standard.
Mais quand on aime le foot.
Qu'il attendait comme le Messi, il est là maintenant, on le titularise, et voilà comment il remet.
Alors justement.
Juste pour te faire foire, quoi.
Donc, en prenant ce rouge, il a bien évidemment pénalisé son équipe qui était revenue à 3-2. L'équipe a fini par plier, but de Hulsager à la 65e qui donne un 4-2. Et puis il y a complètement lâchage, roulibrage, je ne sais pas quoi. 93e et 96e, Ostende aggrave le score et donc finit à 6-2. J'ai une question, est-ce que vous pensez que... Au-delà de la performance des joueurs, dont vous allez me dire ce que vous avez pensé, j'imagine qu'on est un peu tous d'accord qu'ils ont été, ils ont pas mis assez d'engagement, peut-être qu'ils étaient, ils avaient la tête ailleurs, que la défaite en finale de Coupe de Belgique les a.
Non, ils ont envie de vacances. S'ils gagnent les playoffs 2, ils ont 3 jours de vacances, quoi.
Mais Mbaylay ne s'est-il pas trompé, enfin, au sujet de Carcella, parce que j'ai l'impression que depuis quelques semaines, il l'avait mis un peu en joker, il le faisait monter. Et là, il le fait jouer d'entrée. Alors, c'est facile de dire ça maintenant, vous allez me dire.
Je crois qu'il espérait justement un impact moral sur le reste du groupe, qui aime bien Carcella. Mmh. Et qui se dit, tiens, on a un leader, il est sur le terrain. Et je pense que la carte rouge, au-delà du fait que ça met l'équipe à 10, ça leur casse le moral.
Un leader, c'est un meneur et donc un donneur d'exemple. Alors là, excuse-moi, mais pour les jeunes standards, bonjour.
Je ne sais pas si ça se dit à l'antenne, mais quel...
Voilà. Mais oui, mais en même temps, tu sais, alors après, l'excuse, c'est oui, mais il se rebiffe parce qu'il en prend plein et il prend plein.
Comme tous les joueurs de ce type.
Mais oui, c'est ça, alors, c'est comme tous les numéros 10, quoi.
Il va prendre 4 cartes rouges par match. Je veux dire, il faut arrêter 2 minutes. Alors qu'il fait un autre sport.
Tu l'as dit, c'est de la frustration pure et dure. Enfin, c'est juste que, il aime pas se faire prendre la balle. Il a jamais été habitué à ça, à part depuis 3-4 ans, là, maintenant, parce que.
Mais qu'il aille à la boxe. Et il aime pas prendre des coups.
Je pense qu'en fait, il sert plus à rien, à part rentrer dans les 25 dernières minutes. À part rentrer dans les 25 dernières minutes, faire un centre, faire un
coup franc. Je crois qu'il est frustré de lui-même, parce qu'avant, c'était le king.
Oui, c'est ça, voilà.
Et il n'est plus, je pense qu'il est frustré de lui-même.
Mm-hmm. On ne peut pas être et avoir été, alors.
En tout cas, comme ça, il ne le sera jamais comme il a été. Ça, c'est clair. Mais il faut remettre peut-être repartir d'une page blanche et de se dire, ok, de se remettre en question et de se dire qu'on n'est peut-être pas aussi beau qu'on pense, qu'on n'est plus aussi beau qu'on
l'a été. C'est dommage pour les supporters.
Il le fera pas à 33 ans. C'est fini, là. Il a 33.
On peut dire ce qu'on veut de Vanden Borre, qui avait comme ça aussi.
Ah, mais lui, il a bossé pendant sa carrière.
Le mec, il est revenu 2-3 fois. Après Vanden Borre, il lui manque des knick-knacks, ça on le sait, mais en même temps, ce mec a bossé.
Il a été à la Coupe du Monde 2014,
on va pouvoir se poser la question d'envisager le futur sans Carcella, au moins le prochain match, puisqu'il sera suspendu, et donc Mbaye va devoir adapter.
Au moins, il n'y aura plus de dilemme pour Mbaye.
Voilà.
Dommage pour les supporters, vraiment.
Oui. Il y avait un autre match, c'était la Gantoise-Malines. Est-ce que vous avez grand-chose à dire sur ce 2-2 qui permet...
Je peux être honnête, moi, ces play-offs 2 ne m'intéressent absolument pas.
Non, c'est vrai. Alors,
à part que j'espère avoir des chouettes matchs.
En tout cas, bravo à Ostend.
Le premier but de la Gantoise, il est vraiment joli. Je crois que c'est Yarmolenko qui le marque, c'est ça. Il est vraiment très beau. C'est un vraiment, vraiment très joli but. Yaremchuk.
J'ai l'impression que... ça ne prêche pas pour ma chapelle, ça ne m'intéresse pas les play-offs 2, mais j'ai l'impression qu'on va avoir de beaux matchs de football parce qu'ils jouent quasiment sans pression. Il n'y a pas l'enjeu, c'est de pouvoir peut-être avoir que 3 jours de vacances puisque les horaires pour la Coupe d'Europe vont être incroyables, donc ça pas le couteau entre les dents qu'ils vont jouer. Et donc ça va leur permettre peut-être de jouer libéré, de ne pas avoir autant de stress.
Ah. C'est la mi-temps.
On fait pause maintenant, juste un tout petit mot sur le match Westland Beveren Serein. Je sais pas si vous avez vu le score ou quoi que ce soit, franchement, Serein mérite tellement pas d'avoir le match nul et Westland, mais qu'ils aillent en division 2, quoi. C'est horrible. Enfin, D1B, pardon.
Donc que tous les deux aillent en division 1B, comme on t'entend.
Serein a super bien joué et a largement dominé Westland. Et qu'une équipe de D1A produise un match comme ça contre une équipe qui est en D1B cette saison, c'est juste scandaleux, quoi.
Heureusement qu'ils égalisent.
Westland n'a rien montré de toute
façon. C'est pour ça que je dis qu'ils aillent en D1B, quoi. Enfin, ils ont eu leur chance, c'est fini.
On va changer de sport.
J'entends cette musique et Westland Beveren est Serein dans la même phrase, dans la même... quelque chose qui ne va pas.
Non, mais je pense que justement, Serein, vous n'êtes pas.
Passons effectivement à la Ligue des Champions, puisque la semaine dernière se disputaient les matchs aller des demi-finales.
L'enchaînement entre Serein et la Ligue des Champions.
Et c'est déjà le retour demain.
C'est peut-être prémonitoire pour dans 22 ans.
Peut-être, on leur souhaite.
Ferreira y croit, je suis sûr.
On va commencer par Manchester City, Paris Saint-Germain. Je vous rappelle le score à l'aller, victoire de City au Parc des Princes 1-2.
Ah bon ?
Un match assez incroyable de par son scénario, puisque le Paris Saint-Germain avait largement dominé la première mi-temps. Marquinhos avait même ouvert le score assez rapidement sur un corner. Mais Manchester City a écrasé la deuxième mi-temps. Écrasé, dominé, on a vu une superbe démonstration technique au milieu de terrain. Mais a marqué sur deux erreurs du PSG et sur deux coups de réussite assez importants.
Ils avaient Kevin, Kevin, il était là et Kevin, il a fait la différence.
Et Kevin, il a fait la différence donc sur Mais bon, il a eu quand même de la chance. Il a déjà sorti de sa boîte à magie des choses bien plus extraordinaires que ça.
Pas à la français, je suis de mauvaise foi. Parce que même la presse française a salué le génie de Kevin.
Alors, deux choses différentes. Je l'ai dit, dans le jeu, ils les ont étouffés. Je dis simplement.
Dans
l'entrejeu, ça a vraiment tourné très bien en deuxième mi-temps. Ils étaient largement au-dessus. Ce qui doit être frustrant pour les joueurs parisiens, et ce qu'il l'est pour les supporters, c'est quand vous perdez ce match sur deux erreurs comme ça. La première, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence de frapper ce centre dans une zone qui est hyper difficile, parce que si elle est touchée par un défenseur ou par un attaquant, Navas, elle arrive tellement près de Navas qu'il n'a pas le temps
d'aller la chercher.
Et en même temps, Navas ne pense pas que personne ne va toucher ce ballon, et donc il ne peut pas aller la chercher.
Je peux pas anticiper.
Je suis d'accord avec toi que ça doit être vraiment très frustrant pour... pas de carte rouge, s'il te plaît, pas de coup.
Non, non, non.
Mais d'un autre côté, combien de buts comme ça on voit par an?
Mais oui, souvent.
Exactement les mêmes. Un centre, personne ne la touche, elle va au filet. Ouais, le gardien, il fait comme tout le monde, comme Navas. Tu peux être le meilleur gardien du monde, boum, voilà.
C'est la réussite, mais c'est là qu'il la met. Il veut la mettre là et elle va là.
Oui, oui, oui.
Qu'elle rentre, c'est un autre truc. Mais...
je sais, il a dû se dire...
Il met un ballon pourri volontairement.
Très intelligente, il a dû se dire... Et parmi les possibles conclusions, c'est que personne ne la touche et que Navas soit battu.
Surtout qu'ils ont personne à City pour mettre la tête. Il y a que des petits. Enfin, si tu comptes sur Mahrez ou Foden pour mettre la tête, c'est et en fait, moi, à la limite, j'en veux plus à Marquinhos qu'à Navas là-dessus. Je comprends pas pourquoi Marquinhos il la touche pas.
Ouais, ouais.
Parce que il aurait pu la regarder passer.
Ça va tellement vite. Et c'est là le génie de Kevin De Bruyne, je trouve. Pour parler plus sérieusement, c'est que et ce serait une fois de temps en temps, on dirait « Ok, c'est la chance », mais lui, il est capable de te mettre chaque fois la balle à l'endroit, mais pile chirurgical, où c'est le plus dangereux pour les autres. Et il arrive chaque fois à le faire. Donc, quoi qu'il arrive, il a probablement pas pensé « Si jamais personne l'a touché,
j'imagine pas qu'il se dise « Je vais faire ça pour ça », mais...
Mais c'était là qu'il fallait... Le jeu appelait ce centre-là.
Je trouve que c'est plus une erreur sur le deuxième goal.
Voilà, le deuxième goal, c'est un coup franc de Mahrez.
Le mur,
un coup franc dans le mur, même lui, il l'a dit. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Enfin, du jamais vu. À ce niveau-là, c'est affreux. Ils ont pris le but au niveau des coudes, je crois. Les deux joueurs qui étaient à l'extrémité gauche du mur se sont retournés tous les deux un petit peu.
Extrémité gauche quand on est face
au but. Quand on est face au but, voilà. Et donc, juste de quoi laisser passer le ballon.
Tu veux dire à son droite
De quoi laisser passer le ballon entre les deux joueurs. Et c'est amusant.
Tu sais quoi, si Verratti s'était couché dans l'autre sens, il n'était toujours pas réveillé. Hein. Il prenait la balle.
Et c'est ce qu'on se disait avant, c'est quand vous en arrivez à un point tel que vous voulez jouer la petite touche, on allonge un gars sous le mur, derrière le mur, au cas où il y a une frappe à terre. Ok,
mais c'est
de sauter en mur, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Cette mode-là, elle a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, maintenant, les attaquants, ils savent, pas les attaquants, mais les tireurs de coups francs, ils savent très bien qu'ils vont plus faire passer une balle sous le mur, vu qu'il y a un gars qui est là. Ça sert à rien, ce truc.
Et puis combien de fois il y avait
Je sais pas si c'est légal.
Bien sûr que c'est légal.
Mais non, tu peux pas jouer à terre. Donc c'est.
Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas maintenir le ballon.
Il est couché par terre.
Tu peux dévier la balle quand t'es au sol.
Tu ne peux pas garder la balle.
On verra le jour où il y a un.
Ils vont légiférer là-dessus.
Non, mais où il y a un tireur de coup franc qui va allumer la tête du mec déjà par terre.
Ou bien s'ils vont siffler un penalty sur une main, sur un coup franc d'un gars qui est au sol.
À mon avis, là, il ne se couchera pas dans le.
Vous mettez Roberto Carlos à la frappe, je sais pas s'il y a un type qui se met par terre. Non, et puis il va forcément y avoir un jour.
Ce sera toi
qui va la prendre dans la tête. Il y a forcément un jour où le ballon va être dévié par le type qui est par terre. Il pourra juste prendre son gardien à contre-pied. Mais bon, pour revenir au PSG, voilà, le deuxième but, il est aussi, il est encore plus pire, je dirais, il est encore pire en termes de frustration, parce que c'est vraiment une erreur de débutant, des défenseurs, de pas former un mur compact.
Surtout qu'en plus, la faute de base n'est pas non plus indispensable.
La faute, elle est plus que pas indispensable. Quoi. C'est dingue. Comment est-ce qu'on peut faire une faute comme ça?
Pour moi, c'est une faute professionnelle,
c'est pareil que pour le carton rouge. En fait, le milieu a été asphyxié en deuxième mi-temps et et le commentateur de la télé Jérôme Bretagne, il disait ils ont du brouillard dans les yeux là, et c'est vrai. Je pense que les mecs ne savaient plus où aller et ils étaient asphyxiés complets.
Enfin, je pense donc, que ça allait très vite.
Ouais, c'est ça. Et ils ont pas l'habitude. Enfin, ils ont fait une première mi-temps de très haut niveau, mais ils ont pas du tout l'habitude de subir comme ça au milieu. Et juste Manchester s'est réveillé et Guardiola a été extrêmement arrogant à la fin du match, ouais. Mais il avait raison. Il a juste dit on a commencé à jouer comme on joue d'habitude et ça a payé quoi.
Ouais.
Alors je pense aussi que physiquement, et on revient chaque fois. Bon, c'est vrai que cette année le championnat en France est plus disputé que d'habitude, mais les mecs de City ils font trois finales de Champions League par semaine. Hein. Le PSG ils font un gros match. Parfois, et puis après, le reste du temps, c'est de l'entraînement.
Mais après, si tu regardes, par exemple, que ce soit le Barça ou le Bayern au tour d'avant, Paris, ils ont pas forcément pêché physiquement, alors que le Barça et le Bayern jouent déjà dans d'autres championnats, quoi.
Mais ils sont moins
physiques. Oui.
Le Bayern,
je suis d'accord. Le Bayern un peu plus que le Barça, ouais.
Est-ce qu'il y a un match retour, quand même?
Il y a un match retour.
Il le joue quand même?
Alors, on va revenir sur le cas d'un joueur, puisque pendant tout le match, Mbappé a été quand même invisible. Il s'est blessé. Il a eu une petite alerte suffisante en tout cas pour qu'il ne joue pas contre Lens ce week-end, pour qu'il ne s'entraîne pas et que aujourd'hui on se demande s'il va jouer demain. Alors moi je suis assez serein là-dessus. Il s'est pas
encore
entraîné.
Serein.
Encore serein. La communication du club
de
Pochettino, c'était de dire qu'il allait faire un entraînement individuel ce soir. Moi, je pense.
Haute intensité, apparemment.
À haute intensité. Moi, je pense qu'il va le laisser sur le banc et qu'il va le faire rentrer en cours de match.
Qu'en pense l'inspecteur Derrick? C'est chronique d'une montée annoncée, quoi. Hein.
Honnêtement, enfin, je veux dire, certes, c'est Mbappé, mais. Quitte à le faire rentrer, c'est pas si mal que ça. Je veux tu peux très bien mettre Moïse Keane sur le terrain, qui se bat déjà beaucoup plus que. Enfin. Certes, Mbappé est très très fort, mais au moins lui il court. Ouais. Enfin, et je sais pas ce qu'il lui a fait à Pochettino en fait, Moïse Keane, parce que
il joue plus
alors qu'il a été super bon au début de la saison. Donc peut-être que c'est sa chance à lui. Et Mbappé, si tu le fais rentrer à la 65e, il peut faire mal.
Ouais, moi, je t'avoue, je suis pas supporter du PSG. Et Sam, tu me diras non, mais je ne suis pas non plus anti-PSG. Ah bon. Voilà. Mais par contre, tu me diras ce que t'en penses. Moi, franchement, alors tu vas me dire, il vient avec ses coups de gueule aujourd'hui, mais Mbappé, il m'a vraiment énervé pour rester.
Je sais, à la Coupe du Monde 2018, mais on va pas rester là-dessus.
Non. La semaine dernière, justement, il m'a énervé.
Ça, c'est vraiment les vieux.
Il engueulait ses
mauvais
partenaires,
côtés,
alors que pour une fois, c'est peut-être lui qui court le plus vite, mais c'est pas lui qui court le plus.
Non, la semaine dernière, il était vraiment invisible.
J'ai trouvé ça vraiment d'une condescendance. Et finalement, rien que pour ça, j'étais presque. Bon, moi, j'adore Kevin, donc je suis pour City, quoi qu'il arrive. Dès qu'il y a un Belge, c'est bon pour moi. Mais franchement. Alors que tu sais quoi, je suis pas un fan de Neymar pour son cinéma et sa théâtralité, etc. Mais il mouille le maillot, le mec. On peut rien dire. À chaque match, il se déchire, il y va, machin. Mbappé, alors il a peut-être cet air un peu hautain, peut-être que c'est juste son état. Et moi, ça m'énerve. Okay. Il a l'air toujours de le prendre de haut. Et
mais
de
c'est un peu c'est un peu son problème. J'ai l'impression, c'est que tout lui sourit tellement que quand ça marche pas. Il est hyper frustré, tu vois, et donc il en devient insupportable. Et je pense que même aux yeux des supporters du PSG, quand il commence à engueuler Mitchell Baker, alors que le gars il joue son premier match titulaire en Ligue des Champions, qu'il a Neymar et Mbappé qui lui disent genre mec soigne tes passes, mec fais des bons centres et tout.
Mais là fond.
Le gars il a 20 ans, vous deux vous avez déjà joué 100 matchs de Champions League chacun et vous êtes en train de l'engueuler alors que le pauvre il fait son premier match contre City.
Je suis d'accord, il a pas été à la hauteur. Tu as raison, je pense que comme son niveau de jeu n'était pas bon, il a dû s'agacer et se sentir frustré.
Enfin,
effectivement,
je préfère ça que Carcella. Mais
ça lui arrive des fois à Mbappé de faire des sales coups. Hein.
Oui, je sais bien, mais la demi-finale contre les Belges, tu faisais gentiment allusion. Là aussi, c'est lui qui a failli faire enflammer tout le match. Avec cette suffisance.
Il y avait une touche pour les Belges et qu'il ne l'a pas rendue tout de suite.
Non, mais
il y a 17 ballons autour du terrain. Je suis d'accord.
C'était la façon de le faire. C'était ce côté condescendant, une fois. J'ai même cru qu'il était hollandais. Tellement il était arrogant sur le coup.
Mais bon, ça aurait été un Italien, vous n'auriez pas dit autant de choses parce que vous auriez dit les Italiens, ils font toujours ça. Mais là, c'est un Français.
L'Italien en aurait gagné.
Juste pour terminer là-dessus, je pense juste que ce gars a tellement une image parfaite dans tous les médias et dans tout ce qu'on voit que des fois, on découvre son mauvais côté et chaque star a un mauvais côté. Et donc, en fait, il faut juste s'y faire, quoi. Mais c'est vrai que c'est insupportable à voir. Mais
je suis d'accord.
Blaise, enfin, un talent pareil, t'as pas besoin de ça.
Ils ont des chances pour le match retour.
Alors, je pense.
Moi aussi, mais je suis pas. Je
fais gaffe.
C'est pour ça que je demande à Blaise.
Honnêtement, je pense vraiment qu'il y a des chances, mais il va falloir faire autre chose qu'à la, enfin. Autre chose qu'à la deuxième mi-temps.
Moi, je crois qu'ils ont les armes pour. Je ne sais pas s'ils ont les soldats pour, mais les armes, ils les ont clairement.
Et surtout qu'ils ont, ils ont pas Gay pour le retour.
Alors, il a été emmené dans le groupe qui est parti à Manchester, donc il y a sans doute eu un côté psychologique, rassemblement, tout le monde derrière l'équipe.
Il faut pas oublier non plus qu'à City, Agüero était pas là, et je sais qu'il a, il a renoué avec.
Il a joué effectivement.
Il a marqué en plus ce week-end où il a fait un assist.
Oui, il a marqué.
Mais il était sur le banc.
Oui, non, mais il a pas joué cette saison.
Il a
marqué 5 buts cette saison. Non, mais
là, il a fait en plus.
Oui, mais enfin, lui, tu peux être sûr qu'un match comme ça, s'il y a un ballon perdu, il sera à la bonne place. Hein.
Il a fait.
C'est pas le match.
Guardiola a fait tourner. Il a 7 titulaires du match de la semaine dernière, de la demi-finale, pardon, qui sont restés sur le banc lors de la victoire contre Crystal Palace. Donc, il a vraiment fait tourner. Effectivement, il y avait des joueurs qu'on voyait beaucoup moins à City ces derniers temps. Agüero, Ferran,
Benjamin Mendy,
qui fait une passe décisive.
Donc, moi, je pense très honnêtement. Alors, la différence de pression, elle est là. Pour Manchester City, selon moi, n'investit pas dans des joueurs autant d'argent dans le but ultime d'être dans cette Champions, de gagner la Champions League. Ils ont investi sur le long terme avec Guardiola, avec tout un système. Tandis qu'à Paris, il y a une plus grosse pression parce qu'ils ont mis des centaines de millions d'euros juste pour ce trophée-là. Tu ne vas pas me dire qu'on achète un Neymar pour gagner le championnat de France, ou alors ils n'ont rien compris au film.
Non.
Ils ont vraiment tout axé, donc, et ils n'ont jamais remporté cette coupe, jamais. Donc pour eux, c'est cette année ou jamais, et donc les joueurs vont tous mettre un ange, hein, à mon avis, hein, et pas que Noah. Hein.
aujourd'hui on est...
Le truc c'est que aujourd'hui John Stones a dit, et c'est ça qui moi me fait peur pour le PSG, John Stones a dit le résultat à l'aller, il ne change rien pour nous, on va jouer comme on joue chaque week-end.
C'est ça le problème,
c'est qu'ils vont faire courir Paris, et Paris va du coup sûrement jouer avec Ander Herrera au milieu qui a plus 20 ans. Enfin, j'imagine que ça va être je vois pas d'autres milieux à mettre à moins qu'il fasse
jouer Draxler.
Peut-être Draxler à gauche, ouais, mais
Meunier.
Bon, si tu mets Draxler, Keane sur le terrain, ça va commencer à
c'est bizarre.
Draxler, ils auraient mieux fait. Enfin bon, après c'est toujours plus facile, la critique est aisée, mais Draxler à la place de Verratti au match aller, je pense qu'on aurait vu un autre match. C'est clairement parce que Verratti, c'est un ratisseur exceptionnel, mais il joue beaucoup vers l'arrière et pas beaucoup vers l'avant, sauf quand il finit. Draxler, c'est une verticalité quasi immédiate, selon moi. Par contre, je voudrais pas être rabat-joie, Sam.
Et on finira là-dessus.
Honnêtement, si tu te mets dans la logique mathématique, Paris doit aller à City, à l'Etihad, minimum. Ils doivent y aller en se disant on doit leur mettre 3 buts. Ouais. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui vont arriver. Après, tu vas me dire que à Barcelone, tu penses pas que tu en mettes 4, mais ils n'étaient pas obligés de le faire.
Deux buts suffisent.
Le contexte n'est pas le même.
Deux buts suffisent. C'est 0-2, ils gagnent.
Oui. Alors, tu as raison.
Si tu vas là-bas en te disant que tu vas pas en prendre un seul, pense que c'est un petit souci quand même de.
Peut-être, mais s'ils s'appuient sur le match aller, ils se disent que si le mur se disloque pas et que Marquinhos juste regarde le ballon, ils prennent pas de but parce qu'ils ont joué au handball. Mais ils n'ont pas, à part la frappe de Foden arrêtée par Vidal.
Conclusion, il faut regarder le match, ça vaut la peine.
Voilà.
Si.
Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que tu as raison de dire que c'est une tâche compliquée, mais il y a un mois et demi à peu près, je crois.
Mais ça vaudra la peine d'être vécu.
City a perdu 0-2 à domicile. Hein. Ils ont perdu 0-2 à domicile en championnat. Donc,
championnat.
Oui, mais je veux dire, c'est des choses qui sont.
Alors,
qui
tout est possible, et tu sais quoi, pour le spectacle, je l'espère. Mais d'un certain point de vue, j'ai la sensation, moi, que demain, ce sera probablement une finale avant la lettre, parce que le PSG doit jouer. Quoi qu'il arrive, ils doivent se ruer devant, pas non plus attendre une demi-heure. Et c'est pas dans l'ADN d'un Guardiola de mettre le bus.
Justement, Guardiola, sur ce genre de match-là, il a tendance quand même à perdre les moyens. Donc, voyons voir.
Si vous voulez gagner de l'argent, vous jouez la qualification du PSG, parce que j'ai regardé les cotes quand même. Le City est largement favori pour la qualif. 1,12 contre 1 contre 5,25 pour le PSG. On passe au match d'après la deuxième demi-finale et on va accélérer parce que on aimerait parler aussi de Formule 1 notamment plus tard. Chelsea contre le Real, il y a eu 1-1 à l'aller. On peut le dire, le Real a été chanceux car ils ont été largement dominés, mais ils ont pu compter sur leurs deux avant-centres, ou enfin pas deux avant-centres, mais sur Benzema bien sûr qui a marqué un but extraordinaire, ouais. Et sur une recrue de dernière seconde. Werner, Timo Werner qui a mangé la feuille de match dans des proportions assez incroyables. On se demande pourquoi il met pas plutôt Giroud à la place de Werner, mais là il a loupé trois occasions nettes qui à 0-1 auraient dû tuer le match et le Real a eu à se n'a pu s'en remettre qu'à un bijou, je sais pas comment on peut dire ça autrement, ce but de Benzema, un centre, l'amorti de la tête qui il se le remet tout seul et il met un ciseau retourné, enfin un but magnifique.
À la Benzema, quoi.
Ouais, ouais.
Pour reprendre l'expression consacrée.
Donc le match retour, c'est à mercredi. Chelsea, mercredi, les chances de qualification, pardon, 1,6 contre 1 pour Chelsea, 2,20 pour le Real. Avant de parler de ce à quoi on peut s'attendre, notamment de la part des deux Belges, il y a une chose qui, moi, choque, c'est peut-être un grand mot. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que le Real Madrid reçoive dans son stade Alfredo Di Stefano, qui est son stade d'entraînement? Alors j'ai bien compris pourquoi il le faisait, ça leur coûtait beaucoup moins cher que de mettre en branle le
parce que le stade, il est en le Bernabeu, il est en rénovation aussi.
Et ben voilà, je savais que j'aurais ma réponse. bravo à eux, ouais, donc ils n'ont pas d'autre choix.
C'est ça.
Voilà.
Ils ont profité du huis clos pour refaire, en fait, pour mettre
en toit. Tu crois qu'il tire avantage de jouer sans un petit
Non, moi je trouvais que c'était un manque de respect pour la compétition, mais avec l'explication de Blaise, je ne dis
fait,
même pas ma bêtise.
Le stade est à l'image de l'équipe, quoi, en rénovation.
Exactement. Mais c'est quand même un luxe de pouvoir jouer sur un terrain comme celui, ouais, du Di Stefano, là, quand ton terrain il est en travaux. Quand on sait que, genre, il y a des clubs qui ont dû jouer dans des stades régionaux tout pourris.
Oui, ils ont un stade d'entraînement assez incroyable. Courtois avait fait un bon match, bien.
Ouais, il paraît qu'il avait fait un arrêt quand même décisif.
Il a fait un arrêt. C'est l'attaquant qui rate.
Comme je vous avais expliqué la dernière fois, à la mi-temps, il y a Giroud qui va voir Courtois et qui lui dit waouh, super ton arrêt sur Werner. Et Courtois qui lui répond bah, elle vient sur moi, quoi.
Voilà, il a juste étendu le pied. Mais parlons plutôt d'Eden. Eden Hazard, il est de retour.
Il était bon ce week-end.
Ouais, mais pour moi, et je partage. Je ne suis pas suspect de suivre les journaux, parce que je le dis déjà depuis que le transfert a eu lieu. Et c'est marrant parce que quelqu'un a dit exactement mes mots.
On t'écoute.
Pour moi, c'était plus un joueur pour le Barça que pour le Real. Et de fait, lui, il a choisi la raison du cœur parce qu'il était supporter du Real depuis petit. Enfin, je ne vais pas dire de petit parce qu'il est toujours petit. Mais depuis
jeune
enfant, voilà.
Il y avait Zidane aussi dans la balance, je pense.
Bien sûr.
Mais j'ai l'impression qu'il ne parviendra jamais à faire son trou au Real au jour d'aujourd'hui.
C'est sur le long terme. Moi, je vous parle de mercredi maintenant. Est-ce que vous pensez qu'avec son retour, il y a eu de belles combinaisons avec Benzema? Ils, ouais, se trouvent bien. Ils ont une.
Les deux, de toute manière. Enfin, ce serait être aveugle de nier le fait que quand ils jouent tous les deux sur un terrain, leur combinaison, c'est juste impressionnant parce que ces deux gars-là, en fait, ils jouent le même football.
Ils parlent le même langage.
Exactement. Ouais. Ils jouent exactement le même football. C'est les petites touches. Ça joue dans les petits espaces, c'est vraiment super beau à voir.
Ils vont sûrement. Des trucs.
Ouais, c'est ça, ouais, ils essayent tous les deux.
Et en fait, ils osent.
Exactement, ils osent et ils essayent sortir de certaines situations où il y a juste quelqu'un qui dégagerait la balle parce qu'il a peur. Quoi.
Alors, Eden Hazard sera peut-être, je dirais peut-être, le facteur X de ce match. C'est lui qui va pouvoir peut-être faire basculer les choses. Est-ce que le Real Madrid n'a pas pêché sur une de ce qui était pas redevenu une force, mais on en avait parlé aussi, son milieu de terrain, où ça a été nettement moins performant qu'avant.
C'est vieillissant, hein.
Et ouais, mais il y a deux semaines,
ils sont très très forts. Même s'ils sont vieillissants, ils sont encore très très forts.
Mais N'Golo Kanté les a.
Je pense que c'est principalement la composition de base, enfin la tactique de base qui a pas marché. Cette défense à 5, il la maîtrise pas, le Real. Et donc, évidemment, ça laisse un milieu en moins. Enfin, vu comment on voit ça enlève un milieu. Et je pense que juste cette équipe, elle est faite depuis 2016 maintenant, pour jouer en 4-3-3 avec les trois au milieu et deux ailiers qui aident Benzema en pointe. Après la défense, bon, ça, c'est un peu bizarre.
Il manque Ramos.
Varane, il manque Carvajal, il manque Lucas Vasquez. Enfin, c'est
Ramos.
Ouais. Mais je pense que Ramos revient pour le match de demain. Je suis pas sûr.
Après-demain, parce que le match de
après-demain, pardon.
Ouais. Après-demain, oui, il était.
Mais bravo à Chelsea, quand même, parce que.
Ouais, ils ont fait un beau match. Ils peuvent être déçus aussi d'avoir fini sur 1-1, parce que avec un avançant plus clinique, même s'il était venu en karting, il aurait sans doute marqué.
Je voudrais rien dire aux fans du PSG que tu es, mais t'imagines si Chelsea gagne la Champions League
et que Villarreal gagne la Ligue Europa.
T'imagines un peu
les coachs.
Hein?
Écoute,
est-ce que tu fais référence au coach?
Au coach, absolument, ouais. Et moi, je fais mon mea culpa parce que je critiquais Tourelle à tout va quand il était au PSG. Et finalement, je me rends compte d'une chose, c'est que quand il coach bien. Mais et oui. Au PSG, il n'a jamais coaché.
Mais c'est le problème de tous les entraîneurs, que ce soit Emery, que ce soit Tourelle.
Je pense qu'il a coaché et que les joueurs ne faisaient pas ce qu'ils demandaient.
Non, il n'a pas coaché. Il regardait le match.
T'as mis le doigt sur le problème. Quand tu mets autant de millions sur deux joueurs, il doit y avoir soit des consignes, mais je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de le lui dire, soit lui-même il se dit je peux pas les sortir, alors même que dans ce match
même je te coupe, désolé, mais même sur ce sur le match contre City, le match aller, c'est Pochettino sur le banc, il y en a un des deux qui doit sortir absolument, que ce soit Neymar ou Mbappé, il y en a un des deux qui doit sortir, il sort Di Maria, ça montre tout, ça veut dire que s'il sort un des deux, il y a l'émir qui l'appelle dans la seconde, quoi, enfin c'est n'importe quoi.
Ouais, non, c'est curieux d'avoir sorti Di Maria et puis d'avoir attendu
le meilleur
si longtemps
joueur
pour
sur
faire
le terrain,
ces changements alors que les...
Je voudrais rien dire, mais si tu sors un joueur allemand au PSG, tu peux pas parce que c'est le joueur que l'émir adore. D'accord.
Les Miradors, les Allemands, c'est magnifique.
Ah, pardon. Désolé.
Allez, on va glisser un petit peu plus au sud.
La vanne pourrie du soir.
Et on va passer à la Serie A,
Pas mieux.
Le titre est désormais joué. C'est le 19e scudetto de l'histoire de l'Inter. L'Inter a profité du match nul de l'Atalanta dimanche pour être sacré après avoir gagné son match samedi. Et si l'Inter est champion, si l'Inter est un royaume, le roi, c'est Romelu. Romelu Lukaku, il réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière. 21 buts, 10 assists en Serie A. Il est excellent. Hein.
C'est Romelu premier.
C'est son premier titre depuis 2010. Donc il va pouvoir peut-être envoyer un petit message à Zlatan qui avait dit quel âge il a ? Il a gagné quoi ? Bon bah alors c'est bon. C'est son premier titre depuis 2010. C'est le sacre qui est d'Anderlecht. Et c'est également le premier titre de l'Inter depuis 2010.
Et je voudrais rien dire, mais c'est bien. Je suis content. Je n'avais plus de nouvelles de Zlatan depuis longtemps. On n'entend plus parler de Zlatan. Il est disparu des.
Non, il a fait. Il a été blessé. Il a fait un assez bon match.
T'as pas entendu l'histoire là ? Il a créé un site de paris sportifs en Suède et genre l'UEFA est en train de faire une enquête parce que évidemment quand t'es joueur de foot, tu peux pas faire un site de paris sportifs.
Non, mais il est pas joueur de foot.
J'ai entendu une stat, si j'ai bien compris. Donc ils mettent fin à la série de la Juve. Qui avait commencé par Conte.
Ouais, exact.
Comme on dit, vas-y, Conte partiro, non ? C'est comme ça. Non, j'essayais de.
Par contre, de te mettre au niveau. Le Conte est bon.
C'est 2011, je pense. Ouais. 2011, le premier titre de la Juve avec Conte, ouais, c'est ça.
C'est rigolo comme pied de nez, je trouve.
Tu as quand même des. Alors, Mourinho, je ne l'aime pas, tu le sais. Mais tu vois Conte, tu vois Guardiola. Tu vois même un Zidane, c'est...
Il gagne des trophées, quoi.
Au bout du compte, tu te dis que c'est quand même des... Mais... trois petits points de bons entraîneurs.
Ouais. Guardiola, c'est dans des championnats différents.
Ouais, mais c'est ça aussi.
Ça, c'est vrai.
Bah, Conte, il le fait avec Chelsea, il le fait avec la Juve, ouais. Il le fait avec l'Inter. Et les trois clubs, quand il arrive, ils sont au fond du trou, hein, il faut le dire quand même.
Ça, c'est une chose. Mais alors, Guardiola, il faut lui laisser ça. Il a repris le Bayern, alors que le Bayern avait 3 ou 4 trophées cette année-là.
Et il a rien fait.
Et il a rien fait. Il a gagné. Il est champion déjà.
Ouais.
Et attends, il a changé complètement l'ADN du Bayern. Le Bayern jouait en tiki-taka machin. C'était du jamais vu. Hein. C'était les Panzers qui jouaient comme des morts de faim. Il en a fait une équipe chirurgicale. Il a apporté sa touche.
C'est vrai.
Il faut lui laisser ça. Hein.
On va lui laisser ça. On lui laissera que ça. Comme ça. Il aura...
on verra bien. On verra bien. À noter demain soir.
À noter. Voilà, on va terminer le foot. À noter deux records quand même qui ont eu. Juste une petite anecdote comme ça lors du match Fiorentina-Bologne. Dusan Vlahovic, c'est le plus jeune joueur à avoir inscrit au moins 18 buts en une saison.
Ah bon ?
Depuis 58-59 en Italie. Il a marqué donc, il a marqué 19 buts. Et Palacio dans le même match. Vous vous souvenez, Rodrigo Palacio, celui qui a une petite queue de rat qui tenait. Il joue à Bologne. Il a 39 ans et 86 jours. Il a inscrit un triplé et c'est devenu le plus âgé de tous les joueurs à mettre un triplé. On fait deux minutes sur la Première Ligue.
Oui.
Alors, on fait deux minutes sur la Première Ligue. Donc, City est tout proche du titre. Hein, 0-2 a gagné à Crystal Palace. Guardiola, comme je l'avais dit, a fait tourner. On a pu voir la richesse de l'effectif.
Leicester est passé un peu à côté.
Leicester est un peu passé à côté, ouais.
Ils ont joué à 11 contre 10 pendant 80 minutes.
Ouais, et c'est...
Ils sont menés 0-1.
Leicester a loupé le bon coup, mais j'aimerais mettre le doigt sur la renaissance de Bale, peut-être, ou de Tottenham, ou est-ce que c'est un coup dans le vent, mais il a mis un triplé, vous allez me dire, c'est Sheffield United en face.
J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a quasi jamais joué, mais à chaque fois qu'il a joué, il a mis genre doublé ou triplé. Quoi. C'est trop bizarre.
Il se déplace pas pour rien, lui.
Je pense qu'il écoute notre émission.
Donc il a mis un triplé, Son a marqué aussi un but, donc 4-0 pour Sheffield, 4-0 pour Tottenham contre Sheffield, Tottenham provisoirement 5e, donc ça remonte, ça descend, la lutte va être serrée. Il y a eu la colère aussi dans le derby d'Angleterre, puisque Man United devait rencontrer Liverpool et que le match n'a pas pu se tenir en raison de l'envahissement ouais, du terrain du stade par les supporters de Manchester qui étaient venus exprimer leur colère aux dirigeants ils n'en peuvent plus. Il y avait même des pancartes « Enough is enough », ils veulent qu'ils partent.
Bon. Il y a quelque chose, moi, je vais ramener ça aux événements qu'a... auquel l'OM s'est confronté en mars, quelque chose comme ça. Et je condamne absolument les deux manifestations. Mais juste, j'ai l'impression vraiment que le traitement médiatique de ce qui s'est passé à Marseille et de ce qui s'est passé à Manchester était tellement différent. J'ai l'impression qu'à Manchester, tout le monde a dit « Oui, c'est le foot populaire qui reprend ses droits, c'est très bien ce qu'ils ont fait, tadadi, tadadi, tadada », alors qu'à l'OM, on a tiré sur des sauvages. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. C'est pas du tout une position ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ça bizarre comme traitement médiatique, en fait. Et... Enfin non, le football populaire n'a pas repris ses droits. Il y a juste des mecs qui sont allés sur un terrain et qui ont mis des pancartes pour que leur président dégage. Quoi. Enfin c'est pas des Robin des Bois. Enfin je sais pas. Gêné ce.
Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que les supporters de l'OM n'ont pas bénéficié de la même clémence. Bon,
après c'est pas le même club. Hein, on est d'accord. Mais
quelle était la réaction de la Fédé anglaise?
Mais je pense qu'on n'a pas encore de...
Non, ils ont dit que le match sera reporté.
Ça aussi que je trouve ça bizarre.
C'est énorme quand même.
Il n'y a rien eu dessus, que ce soit les instances, les ministères, tout ça, personne n'en a parlé. Alors qu'en France, on a directement pris le truc à bras-le-corps. Oui, c'est scandaleux ce qui s'est passé.
À Charleroi, ça s'est terminé bras-dessus-bas-dessous avec Mehdi Bayat.
Et alors, c'est amusant, dans le même temps, je crois que c'était même un peu avant, il y a eu une proposition du maire de Manchester qui a dit qu'il était depuis longtemps un fan du système allemand de détention des clubs, qui est le 51, c'est-à-dire que la majorité des actions du club doivent appartenir à une association sans but lucratif. Et donc il a dit que ce serait une bonne chose pour, en tout cas, de consulter
sans
les
supporters. Sans but lucratif.
Voilà. Après, il a dit on en est bien loin, et effectivement, ils en sont bien loin.
C'est le retour du foot populaire, Henri.
But, je comprends, mais lucratif.
Juste un point sur le classement, donc City va être champion, hein, c'est plus qu'une question de jour, puisque Manchester a un match de retard. Leicester reste 3e.
Si on divisait les points par deux.
Avec 63 points devant Chelsea, 61. Le trou est fait, mais Tottenham, la 5e place est qualificative pour l'Europe. Tottenham 55, West Ham, Liverpool et Everton suivent avec un match en moins. Ça va être encore serré et ça risque d'être sympa.
Et aussi en Espagne, rapidement, ils ont, enfin, je sais pas si tu comptais en parler, ils ont tous gagné ce week-end, la course au titre est vraiment super intéressante.
Quoi. Deux points pour trois équipes, quoi.
Quatre équipes, parce que Séville est revenu derrière, s'ils gagnent ce soir, ils reviennent à un point du Real et du Barça.
Un match de plus.
Non, parce qu'ils jouent ce soir leur match de ce week-end. Enfin, tu vois, il y a une journée le lundi soir en Espagne.
Ouais, il joue le dernier match, le match décalé du lundi soir. Et effectivement, bah, on vous donnera l'avancée du score si vous êtes intéressé.
Et puis même si vous l'êtes pas,
on fait ce qu'on veut. Allez, je vous propose qu'on passe, pour clore cette émission, à la Formule 1. Formule 1 qui s'arrêtait, comme je l'ai dit, le grand Barnum, le circus de la Formule 1, faisait escale à Portimao au Portugal. C'était la troisième manche du championnat du monde. Valtteri Bottas, le coéquipier de Lewis Hamilton, avait chippé la pole position pour
7 millième
à Lewis Hamilton et il l'avait ainsi privé. 7 millième, oui. Il l'a privé de sa 100e pole. Il est encore à 99, mais ça n'a pas empêché Lewis Hamilton de remporter la course, la 93e victoire de sa carrière. Il a devancé Max Verstappen, Bottas, Pérez, Norris, Leclerc, etc. Alors, c'était pas, sans doute pas le Grand Prix le plus passionnant depuis le début de la saison, déjà parce que les deux premiers étaient très chouettes et que celui-là, il était peut-être un ton en dessous. Mais ça a été un peu animé. On a vu des jolies choses. Didier, qu'est-ce qui t'a retenu de ce Grand Prix ?
Bah, j'ai l'impression de me répéter chaque fois qu'on parle de F1.
À part le talent fou de Lewis Hamilton.
Le talent fou, ça, c'est quelque chose d'inné, mais ce qui me fascine chez ce gars... septuple champion du monde et il a une motivation comme s'il avait encore jamais eu un seul titre et un seul trophée et il garde aussi une certaine fraîcheur aux interviews. Alors je ne sais pas comment il est en dehors des caméras.
Dans le civil.
Mais chouette gars. Mais oui.
Je crois souvent à la boulangerie à Monaco.
Très chouette.
Je ne sais pas, je vous en avais déjà parlé. Tu inverses les rôles, tu mets Lewis devant, d'ailleurs ça s'est vérifié dans le Grand Prix d'hier, et Valtteri derrière. Eh bien, au bout d'un moment, Valtteri, il va décrocher, c'est-à-dire que Lewis va
pousser. C'est gênant quand même, Bottas. Hein.
Bah, c'est pourtant un bon pilote, ouais, mais franchement.
Hier, quand il le passe, il prend genre 3 secondes en deux tours. Enfin, c'est...
Ouais, il l'a...
Mais en même temps, une fois qu'il est passé, il faut jouer la course d'équipe, donc je ne pense pas que Bottas ait été à la grosse attaque. Maintenant, ce que j'aime chez Hamilton, c'est qu'il n'a pas laissé une demi-seconde de répit à Valtteri quand il était devant. Il était constamment dans ses échappements, ce qui est très compliqué à gérer parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et selon l'endroit du circuit, le vent n'était pas de la même direction. Et donc parfois, ça suppose des problèmes à la fois pour l'équilibre arrière de la voiture ou l'équilibre avant. Selon les cas, tu es en survirage ou en sous-virage. Donc c'est extrêmement délicat. Pour les profanes qui regardent de la Formule 1, ils se disent « bah oui, ils sont assis, ils roulent en voiture ». Non, c'est pas rouler en voiture. Hein.
Non,
je défie n'importe lequel de nos auditeurs à ne fût-ce que faire un quart d'heure de karting, mais pas un karting à 30 à l'heure. Hein.
Ouais,
déjà, même à 30 à l'heure, après un quart d'heure, vous ne sentez plus vos bras. Tout à fait. Donc, il faut s'imaginer ce que c'est à 300 à l'heure quand tu prends du 5G dans pas mal de virages sur les 12 qu'on comportait, je crois, ou 14 qu'on comportait le circuit. Voilà, et ce panache, il n'y a qu'Hamilton qui l'a, je retiendrai ça.
Alors, moi je suis assez d'accord avec toi sur le panache, parce qu'il y a une chose qui m'a fait me dire, c'est vrai que ce type-là, il est quand même particulier. Vous savez que maintenant, depuis quelques saisons, il y a un point qui est attribué au meilleur tour en course. Mmh. Et donc, une fois que la course était jouée, Pérez, qui était quatrième, Bottas, qui était deuxième, troisième, et Verstappen, deuxième, sont tous les trois arrêtés au stand, ont chaussé les pneus tendres en se disant, on va prendre un point en faisant le meilleur tour.
On va limiter les dégâts.
Hamilton était largement en tête et ils ont ouvert la radio à un moment et il a dit, en tout cas, il est pas rentré au stand, mais il s'est informé pour savoir qui était rentré et ça lui a traversé l'esprit quand même de se dire, peut-être que je peux rentrer au stand pour moi aussi prendre le meilleur tour. C'était un risque qui était inutile à ce moment-là de la saison. Il l'a pas fait.
La raison l'a emporté. Mais, parce que...
Et voilà, rien que l'idée de se dire ça, tu dis souvent, taclant un peu Prost, c'est pas du tout lui qui aurait fait ce genre de choses, on est certain. Et ce panache-là, c'est vrai que c'est chouette.
Mais en fait, ce que j'aime chez Hamilton, honnêtement, c'est qu'il a du panache dans la victoire, et ça arrive très souvent, comme dans la défaite, en fait. Et c'est pas un gars qui lâche, et même quand il va perdre...
À la Carcella.
Oui, voilà. C'est, et en fait, en plus de ça, il est propre quand il y a... Ce que j'adore chez lui, depuis les années, ça fait maintenant 12 ans qu'il est en Formule 1, C'est pas un pilote de stock car, c'est pas un gars qui va mettre un coup de volant dans la voiture comme Vettel a pu le faire un moment, alors que Vettel est aussi un très très grand pilote. Je veux dire, ce gars il ne met pas la vie de ses collègues en jeu, il reste propre. Il est très incisif, c'est vrai, mais il reste propre.
Et je pense qu'il redonne, si tant est que la Formule 1 en ait eu besoin, mais il redonne à la Formule 1 des lettres de noblesse, oui. Et il attire pas mal de gens. Moi, j'ai discuté avec pas mal de gens qui étaient, dans leur jeunesse, fans de Formule 1, qui ont lâché un peu au fil du temps, parce que c'est vrai qu'à un moment, c'était moins intéressant, et qui ont repris. Alors, on m'a dit, pas mal de gens m'ont dit que la série Formule 1 sur Netflix avait pas mal réactivé l'intérêt des gens.
Hein, vous super l'avez conseillé, série. D'ailleurs.
Et donc, il y a des gens qui sont revenus à la F1 et qui sont peut-être pas familiers avec certaines technologies nouvelles qui sont sur les voitures. Et je voudrais te demander, Didier, parce que tu es le plus calé de nous tous, oui. on entend souvent parler du DRS en disant il est dans une zone de DRS, il a activé le DRS, il va... Est-ce que tu peux nous expliquer quelques mots ce que c'est que le DRS et comment ça
s'utilise ? Alors, ça a été créé à la
oui,
base...
Oui, Jamie.
ça a été créé à la base pour redonner du suspense dans les courses et redonner surtout du spectacle. Il faut savoir que Liberty Media, qui a racheté la Formule 1, et on le voit d'office depuis qu'ils ont repris les rênes, le suivre à la télé, ça devient de plus en plus intéressant parce qu'il y a des caméras on-board qu'il n'y avait pas auparavant. Et maintenant, c'est très américain, tu vois les statistiques. Et on te dit, tiens, à ce rythme-là, tu suis parfois une course avec un pilote qui est à 18 secondes, et alors on te dit, ben, dans 6 tours, il sera dans les échappements, etc. Donc c'est extrêmement pointu, et donc ça redonne du suspense là où ça pouvait en manquer peut-être. Et le DRS a été créé pour donner un adjuvant de vitesse, c'est-à-dire que sur toutes les voitures, tu as les ailerons arrière, qui ont l'air de rien, on a l'impression que c'est esthétique, pas du tout, c'est ce qui permet à la voiture de coller à la route, c'est les appuis aérodynamiques, comme on dit. Et donc le DRS, c'est une zone qui est délimitée par électroniquement, donc voilà, que les pilotes peuvent activer ou non, parce que ce n'est pas ad vitam aeternam, ça leur coûte de l'énergie aussi, etc. Et donc, et si tu vois la caméra de face, quand les voitures sont dans la zone DRS, tu vois les ailerons arrière qui se mettent à l'horizontale, donc il n'y a plus cette résistance au vent. Et donc, ils ont effectivement une vitesse et ils peuvent gagner jusque 10, voire parfois 20 km/h sur la voiture qui les précède. Alors, il faut savoir qu'il faut il faut une seconde maximum d'écart entre les deux. Donc, si tu as une seconde et un centième, tu peux pas l'activer. Si tu es à 999 millième.
De manière réglementaire, tu veux dire?
Réglementaire.
D'accord.
Tout à fait. Donc, si tu es à 999 millième de seconde de la voiture qui te précède, tu peux l'activer. Enfin, tous les pilotes appuient, mais parfois ça ne s'active pas. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que le DRS est utile pour l'attaque. Tu regagnes du temps, mais aussi pour la défense. Parce que parfois, tu verras qu'en fonction de la course, tu as parfois le premier, le deuxième et le troisième qui sont dans un mouchoir de poche. Le premier ne peut pas activer son DRS, forcément, sauf s'il y a des doublés qui arrivent. Mais le deuxième, il l'active, et donc ça s'annule avec le troisième qui voudrait le passer. Donc tout ça, ça demande des stratégies.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs un petit peu en début de course, les quelques tours où ils se sont retrouvés tous les trois, Bottas, Hamilton et Max Verstappen.
Mais alors, il faut savoir que ce n'est jamais au départ de la course. C'est toujours après 3 tours ou 4 tours que le DRS est autorisé, parce qu'au départ ils sont trop groupés et que ça pourrait être dangereux.
Non, mais là, comme il y a eu, justement, ça me fait arriver sur mon deuxième point, il y a eu le safety car, et donc le safety car a mangé quelques tours, et donc c'est à la reprise, on était déjà au 8 ou au 10e tour, il y a eu ça. Le safety car, justement, c'est une mesure de précaution. Lorsqu'il y a eu un accident, on est obligé de neutraliser la course, il y a plusieurs technique, il y a plusieurs moyens de le faire. L'une, c'est le safety car.
Il y en a trois. Enfin, à ma connaissance, tu as le safety car, tu as le full course yellow, le FCY, comme ils appellent ça. Et après, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et puis, il y a le drapeau rouge, et là, tout le monde rentre dans l'allée des stands, et puis terminé.
Il y a aussi la VSC. La virtual safety car.
Oui, tout à fait, mais c'est l'équivalent du full course yellow, excuse-moi. La virtual safety car, en fait, ça dépend aussi, parce que tu as des zones, par exemple, où tu as, quand il y a eu un accident, un crash, et qu'il y a des commissaires qui doivent intervenir pour dégager une voiture, et qu'il n'y a pas de débris sur la piste, à ce moment-là, on rentre très souvent dans une virtual safety car. C'est quoi la virtual safety car? C'est que, comme son nom l'indique, il n'y a pas de voiture de sécurité qui rentre sur la piste, mais les pilotes sont tenus dans un certain secteur du circuit, de s'en tenir à, je pense, 80% de la vitesse ou 70%. Enfin, voilà, ils doivent respecter. Parfois même, c'est une réglementation de kilomètre-heure.
Ok, ils ne peuvent pas dépasser une certaine vitesse.
Le full course yellow, c'est quand, comme son nom l'indique, c'est sur tout le circuit que ça se passe. Moi, personnellement, d'un point de vue sportif, et on en parlait au rentrée tout à l'heure, j'aime bien cette notion-là parce que le pilote qui s'est donné pour pouvoir creuser, il faut savoir qu'on se bat à coups de
millièmes, de 7 millièmes pour la prouve.
Donc, c'est plus équitable.
Oui, parce que parfois... il faut se dire qu'à l'échelle de la F1, gagner avec 2 secondes 7 ou 3 secondes d'avance, c'est galactique, je veux dire, pour des voitures de ce niveau-là. Et donc, à partir de là, le full course yellow est intéressant, puisqu'il y a eu un fait de course qui fait que la course doit être neutralisée. Donc, tout le monde roule à la même vitesse, et donc les écarts restent.
Se maintiennent.
Ouais. Alors qu'avec la safety car, elle rentre, le premier doit s'aligner derrière et suivre le rythme, et tous les suivants arrivent de nouveau, et ils sont à la queue leu-leu, et on reprend
c'est
un
départ. C'est comme un accordéon qui se referme, tout le monde se revient les uns sur les autres.
Oui, je suis très impressionné, parce que tu dis le nombre d'informations que le pilote a. Moi, quand je roule en voiture, et que j'ai une petite loupiote rouge qui arrive, ça me distrait. Et eux, ils ont une foule d'informations par les oreilles, par les yeux, par la course, par le pilotage. C'est des machines, les gars.
Ah ben, c'est rien de le dire. Hein. Je vais te dire, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand tu vois qu'un volant de n'importe laquelle des 10 équipes, c'est des heures, si pas des semaines, voire des mois d'études pour savoir comment l'utiliser. Ils sont en pleine course, parfois en pleine attaque. Et chaque bouton a son importance. Et si tu te loupes, ça peut ruiner ta course. C'est juste invraisemblable.
J'ai encore une petite question. Boutsen, il a terminé quantième.
Thierry, il était avec Alain Prost. Et Nigel Mansell, il faisait le senior.
Ils sont très amis avec Alain Prost. Ah, mais pour moi, Boutsen avait plus de panache qu'Alain Prost.
Bon, on ne va pas comparer. Non. Bon, là, tu fais vraiment de l'anti, français.
Non, parce que j'adorais Jean-Alain. Il avait aussi du panache.
Ouais, donc t'aimes bien les Français quand ils s'écrasent dans le bac à sable.
Non, j'étais fan de Jacques Lafitte, je t'avoue franchement. J'ai rien contre les Français, mais Prost m'a vraiment déçu.
Rapidement, là, Romelu Lukaku vient de mettre un truc sur son compte Instagram, justement pour répondre au truc de Zlatan qu'il avait dit la dernière fois. Il lui a dit « Le vrai Dieu a couronné le roi, maintenant prosterne-toi ». Prosterne-toi, je suis le roi de Milan.
Oh là là, il sait pas à quoi il s'expose, le pauvre.
Je crois qu'il s'est pas fait un copain là.
Non. Je suis pressé, il n'y a pas un Suède-Belgique à l'Euro ?
Je pense pas. Je pense pas que la Suède.
Ils sont, et Zlatan a dit qu'il revenait.
Heureusement pour Romelu que Zlatan n'est pas défenseur.
En tout cas, on vous remercie. On était ravis de passer 7h30 avec vous.
Merci,
on vous souhaite à tous une très bonne